Nous sommes mercredi 2 décembre 2020 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Non, pas Alias Kazoo.
Salut.
Bonsoir Rotflix.
Bonsoir.
Non mais c'est tu connais le Kaiju.
Ouais.
Lui c'est le Kaizu.
Le Kaizu.
Ça me fait plaisir.
Kaizudes.
Kaijudes. Bref, une émission qui va être sous le signe du remplissage de fin d'année.
Alors non, c'est faux. On va parler de trucs très sérieux.
Alors déjà, on va commencer par
voilà.
Ah, putain.
Pas après la pub, la mienne.
Quoique, quelque part, on ne pourrait pas parler d'un jeu qui finalement fait dans son concept même le remplissage.
Ouais, un petit peu.
Alors, le titre de ta sextape d'abord. Classique.
Évidemment.
Donc, oui, nous allons parler de Hyrule Warriors. Alors, j'ai noté Age of Calamity.
L'ère du fléau.
Mais l'ère du fléau, et j'aurai une petite anecdote extrêmement rigolote à propos de ça. Donc, on fera ça tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons un petit peu des Game Awards 2020, mais pas pour parler de la cérémonie elle-même qui nous intéresse très peu, surtout que ça va être une version en ligne qui va être un peu foireuse.
Oh, alors, du coup, il n'y aura pas l'orchestre?
Je ne sais pas. Est-ce que ça va être plus foireux que la version pas en ligne?
Bah, sachant que c'est un truc qui est créé par Monsieur Dorito...
Ouais, c'est un peu compliqué.
Mais ouais, bon, mais l'orchestre, ça vaut le coup. Le reste, on s'en branle, mais...
Non, mais il y a des petites choses sympathiques à discuter cette année qui, je pense, méritent qu'on s'y attarde. Surtout que, dans 2 semaines, nous ferons très probablement notre émission Bilan de l'année Madame Irma.
Oui.
Et donc, il y aura forcément des choses... Voilà. Donc, on évacue un petit peu le Game Awards maintenant, parce que, finalement, il y a des choses intéressantes à en dire. On va essayer d'en parler. Mais on va commencer tout de suite avec les restes du monde. Et je vais commencer avec Monsieur Antix.
Ah, oui.
Il a généreusement proposé de faire un petit truc sur Hades.
Qui s'est tellement bien proposé que bah il a rien préparé, donc il va faire ça en impro.
Waouh!
Ça, quel plaisir, Hades.
Hein.
Exactement, ça, quel plaisir. Je pense que mon collègue Galaxies a particulièrement bien résumé mon avis sur le jeu. À titre personnel, c'est un de mes jeux de préférés de cette année. Hades, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier jeu de Super Giant Game que vous connaissez sûrement pour Bastion, qui était un petit hack and slash plutôt sympathique, et Transistor qui était un
petit hack and slash pas terrible du tout.
Qui était pas terrible du tout, je l'ai fait pendant le confinement et bref, voilà.
C'est un peu ça, moi j'ai fait les 2 premiers niveaux, j'ai fait non, stop.
L'idée était intéressante, l'exécution était très bof. En octobre, ils ont sorti en exclusivité console sur Switch, puisque le jeu était disponible en accès anticipé sur l'Epic Game Store depuis l'existence même de l'Epic Game Store. Hades, qui est leur dernière création, qui est un roguelike, donc qui était la deuxième raison pour laquelle j'étais pas tout à fait chaud pour l'acheter le jour de sa sortie. La première étant que Transistor c'était nul. Et donc j'ai attendu un peu, et j'ai vu pas mal d'avis, et notamment un truc qui m'a intéressé et qui a fait quand même pas mal de gens en sa faveur mon achat du jeu, c'est que l'aspect roguelike est intégré en fait à le scénario et l'aspect roguelike se complète. Pourquoi ? En fait, dans le jeu, on incarne Zagreus, qui est le fils d'Hadès, donc dieu des enfers de la mythologie grecque, qui fait sa crise d'adolescence et qui a dit, bah, en fait, je vais me casser des enfers. Au début, on ne sait pas pourquoi, on le découvrira par la suite. Mais du coup, ben, il essaie de sortir des enfers qui sont gardés par tout un tas de créatures plus ou moins vivantes. Quelques dieux de l'Olympe, quelques champions, enfin quelques dieux des enfers, quelques champions déchus, et le cadavre d'un hydre, entre autres. Donc c'est pas non plus quelque chose de très facile, et il va beaucoup mourir. Et en fait, la mort est intégrée à l'histoire, parce qu'à chaque fois qu'on fait on meurt, on ne retourne pas à l'écran titre, en fait on retourne dans une espèce de lobby, qui est la maison d'Hadès. Dans lequel il y a pas mal de PNJ, notamment les autres dieux des enfers comme Thanatos, Hypnos, Nyx, qui est la mère du héros, et tout un tas de personnages secondaires ou en couleur.
Oui, dont le nom de famille est Amer. Nick sa mère.
Nick sa mère.
Ah, je vais le mettre dans le chat.
Ah là là. Partage, tu passes modo.
High five.
Et du coup, l'intérêt, c'est que plus tu vas mourir, plus tu vas revenir dans ce lobby, plus tu vas discuter avec les gens, et plus tu vas apprendre de nouvelles choses sur l'histoire, sur les personnages.
D'accord.
Ça se base énormément sur la mythologie grecque, donc, notamment par exemple, il y a Orphée, qu'on va reparler du mythe d'Orphée et d'Eurydice, parce que les deux personnages
sont
présents.
Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le côté, le développement de l'histoire par le roguelite pour développer l'histoire.
C'est ça.
C'est vraiment original, ça.
Et même quand on arrive à finir une première run, donc à sortir des enfers, en fait, le jeu trouve un moyen de retomber sur ses pattes et de t'encourager à sortir de nouveau des enfers. Donc c'est vraiment plutôt bien fait, c'est assez addictif. Et là, j'ai parlé que de l'aspect scénario, mais bon, l'autre truc intéressant, c'est le gameplay.
Ah.
Et alors, le gameplay...
Quel plaisir.
Et voilà, et ça c'est l'autre truc en fait qui m'a aussi décidé, c'est que d'un point de vue, c'est clairement du hack and slash, on est sur une vue isométrique avec des salles, avec des ennemis à détruire. Le personnage a plusieurs coups, un projectile, une attaque normale et une attaque qu'il appelle la technique, généralement un coup un peu plus puissant, généralement une attaque de zone ou un coup qu'on peut lancer aussi, ça dépend des armes, parce qu'il y a 6 armes différentes aussi, c'est important de le dire. Et déjà, ça en soi, ça marche bien. Le petit truc fun derrière, c'est qu'en fait, notre héros, il va être aidé par les dieux de l'Olympe, qui vont lui filer des pouvoirs, et qu'en fait, ces pouvoirs vont rajouter des propriétés à chacune de ses attaques, et qu'en fait, vers la fin du jeu, on arrive à un moment où tu peux avoir des combinaisons totalement pétées, où limite, tu passes plus de temps à remplir l'écran avec des lasers ou des boulettes, qu'à faire les attaques normales, et c'est quelque chose qui est extrêmement fun et extrêmement satisfaisant quand on arrive à avoir ce genre de build, parce que c'est un peu le terme consacré dans les roguelikes, où vraiment on se sent vraiment surpuissant, où on défonce toute la piétaille en quelques coups, et où les boss prennent quand même très 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 cher. Donc c'est un jeu qui est extrêmement fun, extrêmement rejouable, avec beaucoup de choses cachées qui se débloquent au fur et à mesure. Ça faisait très longtemps qu'avec mon meilleur ami, on s'était pas motivé pour faire un jeu en même temps et en parler. C'était aussi assez stimulant.
Je me permets de le mettre sur le direct, une photo de donc j'avais mis juste avant du personnage principal Zagreus. Et là, je me permets de mettre une photo de Chaos pour vous montrer à quel point le caractère design et en général le design du jeu,
c'est stylé,
est
ah oui,
incroyable. Et
la DA est incroyable aussi. Alors bon, ça reste de la 3D un peu simpliste en termes de design.
Enfin, c'est pas du low poly non plus. Hein,
pas du low poly non plus.
Non, ce qu'ils expliquaient, c'est que il y a un très bon making of que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant Hades making of. Qui explique en fait comment ils ont fait, c'est-à-dire que à la base c'est des dessins 2D, donc ceux qu'on voit par exemple dans les dialogues, et le modèle 3D était juste là pour accompagner le dessin 2D, c'est-à-dire que c'était juste une manière de mettre en relief le dessin 2D. C'est assez intéressant, la modélisatrice 3D explique comment il faut adapter le modèle 3D pour ne pas dénaturer le dessin, mais au contraire pour lui donner vie en fait, comme pour l'accompagner, pour accompagner le modèle 2D dans un dessin dans le jeu quoi.
Et clairement ça marche vraiment bien. C'est un peu ce qu'on a sur pas mal de jeux japonais, un petit peu low budget où justement on compense le fait que les modèles 3D sont soit assez loin, soit finalement assez limités parce que le budget est pas là, avec des dessins en 2D. Des artworks de dessins de personnages très réussis, très poussés. C'est un peu ce que fait Fire Emblem, par exemple. Mais dans
Sauf
Hades...
que c'est moche.
Hein? Sauf que c'est moche. Je suis pas tout à fait d'accord, mais dans Hades, c'est poussé à un niveau où c'est extrêmement bien travaillé, au point où les premiers jours qu'on suivait la sortie du jeu, t'avais beaucoup de mecs sur Twitter ou streamers qui disaient « Mais en fait, ils sont tous bonnards, les personnages, que les mecs comme les filles. » Et ça, c'est vrai. Et je crois que c'était même à un stade où je sais plus quel journal britannique avait interviewé celle qui s'était occupée justement de chapeauter tous les designs, et à un moment elle s'était posé la question, mais est-ce que je les foutrais pas tous à poil
en fait. Quelle bonne idée.
Alors qu'au final il y en a quand même une qui est restée à poil, c'est Aphrodite.
Ce qui
n'est
pas complètement illogique.
Ce qui n'est pas complètement illogique. Hein. Mais encore une fois, c'est subtil. Hein. J'ai mis un peu de temps avant de me
rendre compte. Elle est subtilement à poil donc.
Ouais, t'as les cheveux qui cachent les tétons quoi.
Ah oui, ça me rappelle un certain Fire Emblem.
Ça marche bien, tu vois, t'as compris. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour d'Hades. Je vous recommande très fortement d'y jouer si vous aimez le style un peu hack and slash, beat them all, avec des gameplay très, un gameplay très très nerveux, un super game feel. Dans la catégorie, dans cette catégorie-là, je pense que c'est du niveau de Céleste en termes de game feel. Ça se manie tout seul, ça répond au poil de cul et c'est extrêmement satisfaisant.
Et mon petit doigt m'a dit qu'il y avait déjà Limited Run qui était sur le coup.
Ouais, voilà.
Ce qui était prévisible.
Et le jeu, il est genre à 20 ou 20. Prochaine. Voilà, et le jeu est à 20-25 euros sur l'eShop. Donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas cher, mais moi c'est un truc qui m'a bien occupé là sur ce confinement.
Sur PC, vous pouvez le trouver encore moins, c'est vraiment voilà. Pas le problème, surtout que sur l'Epic Game Store, il y a constamment des réductions ou des bons de ouais, des réductions soit par des soldes, soit des bons de réduction qui vous sont donnés. Et franchement, foncez, c'est très très bon.
Ouais, sur Switch, c'est parfait pour vous occuper pendant vos réunions de 3 heures où vous n'avez rien à foutre. Oui, alors, ça sent le vécu.
Excusez-moi, hein, je suis désolé, hein, monsieur, je suis démissionnaire. Donc, deuxième petite chose que j'ai rajouté un petit peu à la volée, la mise à jour de la Switch 11.0, puisque pour une fois, elle ne vise pas la stabilité ultime, la grande balance du cylindre de l'univers, mais elle rajoute une vraie fonctionnalité. Attention les yeux. Alors elle rajoute plusieurs fonctionnalités. La première, c'est de pouvoir ordonner les téléchargements. C'est-à-dire quand vous lancez des téléchargements de 2 ou 3 mises à jour, de 2 ou 3 jeux, ou que vous lancez 3 téléchargements, vous pouvez dire finir celui-ci en premier.
Ah, ça c'est cool. Justement, c'était toujours le dernier, c'était chiant.
Voilà. C'était dans l'ordre dans lequel tu les avais lancés. Donc c'était pas forcément l'ordre que tu souhaitais. Ça c'est quand même une très bonne chose. Et la deuxième, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement récupérer les photos et vidéos de la console. Avant, il fallait obligatoirement passer par un compte soit Twitter, soit Facebook, soit autre chose. Twitter, Facebook, tout. Ça doit être tout.
Soit sortir ta carte SD.
Carte SD et te casser le cul. Donc là, soit tu branches ta Switch directement sur ton PC et bah, tu peux directement naviguer l'album. C'est classé par nom de jeu en plus.
C'est assez bien fait. En plus, ça s'utilise avec un câble USB-C, tout ce qu'il y a de plus standard. Je teste avec le câble de mon téléphone. C'est juste que c'est au fin fond du menu paramètres.
Ouais, c'est un peu casse-couille à activer, mais globalement, quand tu l'actives, c'est quand même plutôt pas mal. Et il y a une deuxième méthode qui est plutôt maligne, même si pas forcément hyper utilisable. En fait, la Switch crée un... Avec ton téléphone intelligent, là... Tu peux scanner un QR code qui en fait est un réseau Wi-Fi. Et en fait, c'est la console qui crée un réseau Wi-Fi auquel se connecte ton téléphone. Et ensuite, tu peux aller. T'as un deuxième QR code qui te permet d'aller sur une page web sur laquelle tu as l'image que tu souhaites partager. Alors, c'est un peu plus long, un petit peu plus laborieux, on va dire.
Mais
ça fonctionne.
Mais ça marche très bien. Hein. C'est ce qui se fait sur les appareils photo depuis des années maintenant.
Mais je trouve ça pas terrible parce que je trouve que c'est assez lent en fait. C'est assez fastidieux, je trouve. Comme process maintenant, quand t'as juste ton téléphone et que t'as pas un câble et machin et tout ça, ça marche très bien.
Ouais, ça va quand tu veux récupérer un ou deux screenshots, si tu veux en récupérer 10 à chaque fois, faut...
Ouais, c'est un peu pénible.
C'est 4 par 4, quoi.
Ouais, c'est ça. Faut appuyer sur le bouton, faire enregistrer sous et t'es... Ah, au bout d'un moment, c'est long. Hein.
Voilà. Donc, mais ça marche très très bien. En tout cas, ça fait plaisir pour une fois que Nintendo rajoute de la fonctionnalité et on a eu un menu Switch Online qui est
dégueulasse.
Et qui rame sa mère.
Oui, putain, oui.
Qui rame sa mère et qui n'est pas très intéressant. Et en fait, je vais quand même bien vous avouer que j'ai pas hyper compris.
Donc, je vais vérifier ça en direct avec toute mon objectivité.
Puis pour le online, on a Vince qui nous rappelait que tout ça, c'est des grands moments de radio et qu'on embrasse les gens en podcast.
C'est vrai. Voilà. Et donc, pour finir, sur le petit point des restes du monde. Donc, deux petits articles à voir sur le dojo rédigés par ma petite personne, donc autopromo. Le premier concerne le mode randomizer de Resident Evil 2. Donc, si vous ne le saviez pas, Resident Evil 2 sur N64 a un mode random. Alors, c'est... Tu sens que les mecs étaient pas tout à fait au point, donc les items clés sont toujours à la même place. Donc il n'y a pas de changement sur le routing, en général. Par contre, tout le reste est changé, c'est-à-dire que tout ce qui est munitions, soins et tout ça, tout est mélangé. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à faire des parties dans lesquelles tu n'as, par exemple, que des herbes rouges.
C'est le mode AGDQ, en fait.
C'est un peu ça, mais c'est le mode un peu chelou. Et tu sens que les mecs étaient pas hyper confiants parce qu'à chaque fois que t'as un drop d'arme, en fait, c'est un nombre de munitions absolument incroyable. Genre, je sais plus, dans le commissariat, à un moment, sur un flic, tu devais ramasser genre 10 cartouches de pistolet. Et moi, une fois, j'ai ramassé 50 cartouches de 50 grenades incendiaires.
C'est pas mal dans un Resident Evil.
C'est bien fumé, ouais. Mais du coup, c'est très très cool en fait à jouer. C'est assez rigolo, surtout quand on connaît bien le jeu. Mais même quand on le connaît pas tant que ça, en fait, on s'amuse assez bien. Donc c'est un peu pénible à débloquer, mais une fois qu'on l'a débloqué, on est assez content.
C'est ça, tu disais, faut torcher le jeu, les deux campagnes pour le débloquer.
Les quatre campagnes.
Oh putain, oui.
Okay. Faut faire Claire A, Claire B, oui. Léon A, Léon B en normal.
Ok.
Donc c'est quand même long. Maintenant, comme c'est de la N64, vous pouvez toujours aller récupérer une sauvegarde sur internet. L'injecter dans un émulateur, ou l'injecter, c'est le deuxième petit article qui est sorti juste hier.
En intraveineuse.
Tout à fait. C'est exactement ce que
c'est le deuxième article sur la drogue.
Je prends en toute amitié mortale sur Majora's Mask Randomizer. Eh bien, écoute, challenge accepted.
Est-ce que ça randomise aussi le nombre d'heures restantes?
Oh putain, ce serait énorme.
Le nombre de doigts utilisables par les joueurs.
Mais attendez, je vous rappelle qu'il y a un mode Resident Evil Randomizer qui randomise les, enfin qui rend aléatoire les portes. C'est-à-dire que vous entrez dans une pièce, vous ne savez pas laquelle ça va être.
Oh mon dieu,
pas mal.
Non.
C'est horrible.
Pardon. Ok.
Voilà, non, stop, il faut arrêter de faire ça. Et donc, un second article sur le dojo à lire éventuellement sur le Retrode 2. Donc le Retrode 2, c'est un petit appareil qui permet d'aller dumper soi-même ses cartouches, et surtout d'aller dumper la RAM de ses cartouches, donc d'aller sauvegarder ses sauvegardes. Et donc, pour les gens qui sont un petit peu motivés, il y a moyen de récupérer une sauvegarde de Resident Evil 2 avec le mode Randomizer disponible, et de l'injecter sur une vraie cartouche et d'y jouer sur sa vraie console. Faut être un peu motivé, hein. Mais ça fonctionne, voilà. C'était la petite promo du dojo, on va se faire une première petite pause musicale, je vous invite donc à écouter le thème principal de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Qui est composé par, alors attention, il y a beaucoup de monde.
Eh, c'est parti.
Kumi Tanioka, Reo Uratani, Ryotaro Yagi, Uraki Yamada, Yanai Ihara, Asami Mikate, Ikaru Yamada, Shigehiko Okuda, Gota Masuoka, Joani Ishigoru, Masako Otsuka, Takashi Yoshida et Hiromu Akaba. Voilà. Il y a
Amen.
Pas qui a composé quoi, c'est un collectif.
D'ailleurs, un truc qui est assez cool, moi c'est un truc qui me faisait un peu peur sur Hyrule Warriors, peut-être qu'on en reparlera après, mais moi j'ai l'impression que ce serait que des musiques rock comme on a eu dans Hyrule Warriors
et
Fire Emblem Warriors, et non, ils ont vraiment repris la couleur musicale de Breath of the Wild, ça c'est très cool.
Ouais.
Effectivement, et vous allez l'entendre tout de suite, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour !
Et donc nous allons parler de Hyrule Warriors Edge of Calamity, ou Hyrule Warriors l'ère du fléau, ou Hyrule Warriors Geheimnis des je sais plus quoi, je me souviens plus du nom allemand. Et petite anecdote pour commencer, parce que il faut savoir que donc le jeu a été le titre du jeu a été traduit dans énormément de langues, et dans les pays dans lesquels il y a plusieurs langues, et bien tous les titres sont sur la pochette. Donc en Suisse, c'est écrit en allemand, en français et en italien.
Énorme, il doit être super content.
Mais non !
Si, si, la jaquette suisse du jeu est écrite en allemand, en français et en italien.
Tiens, vu qu'on parle des titres dans les différents pays, je te fais le japonais ou pas ?
Ah, vas-y. Ah oui.
Zaluda Musou, Yakusai no Mokushiroku.
Ah, ça résonne bien. J'aime beaucoup.
Ça me donne envie de taper.
Moi, j'aime toujours, j'aime bien entendre Zelda Musou. C'est un petit côté... Il y a vraiment un côté, ce truc ne devrait pas exister.
Mais alors qu'il est très bien, non Hyrule Warriors, d'après ce que j'en ai...
Alors,
on va y venir.
On va y venir.
D'après ce que j'ai compris.
Dans l'épisode précédent.
Dans l'épisode précédent.
Kojiko avait fait Hyrule Warriors.
Il avait fait Hyrule Warriors, qui était assez vulgose dans le style, en tout cas dans la DA.
Quand tu revois la design du premier Hyrule Warriors, c'est compliqué, hein. Mm-hmm.
C'est un mélange entre Skyward Sword et... un truc moche.
En fait, le truc, c'est que pour chaque personnage, tu pouvais voir un truc bien, mais il y avait un truc naze qui cassait tout. Genre, Zelda ressemble à une combattante, mais tu comprends pas pourquoi elle a un décolleté. Link, bah, il a une cape bleue, ce qui est assez cool, et puis bah, il a une sale gueule.
Voilà, t'avais Linkle qui était intéressante, et puis dès qu'elle se mettait à parler, il y avait un souci.
Voilà, en fait, le meilleur personnage, c'était Impa.
Oui. La Impa version Warriors 1, ok.
C'était genre leur plus grande réussite.
Je confondais avec le Impa Warriors 2 et j'y viendrai.
Oula.
Non. En très très bien.
Nice. Donc ouais, voilà, ils ont sorti ça. C'est sorti sur Wii U, puis sur 3DS, puis sur Switch. Il y a eu un spin-off. Fire Emblem. Ouais, un chier de DLC. Effectivement. Il y a eu un spin-off Fire Emblem aussi, dans la même veine.
C'était déjà un cran au-dessus.
Bah, qui avait le bon goût par rapport à la version Wii U d'Hyrule Warriors, ça permet de switcher entre les personnages et à la volée sur le champ de bataille, et surtout de pouvoir dire aux personnages que tu ne contrôles pas de se diriger vers des cibles particulières.
Ouais.
Ce qui est repris dans le Hyrule Warriors, l'ère du fléau.
Mm. Et en un peu mieux, ils respectent mieux tes ordres en plus. Voilà.
Mais du coup, là, c'était dans les épisodes précédents. Maintenant, on va pouvoir parler de l'ère du fléau. Je vous laissais parler, vu que moi, j'y ai pas joué.
Oui, donc effectivement, dans les épisodes précédents. Donc là, maintenant, on a une DA et un habillage complet qui ressemble énormément à Breath of the Wild. D'ailleurs, c'est assez flippant parce qu'effectivement, quand on plisse un peu les yeux, on ne sait plus vraiment si on joue.
Ouais.
À Breath of the Wild ou à Hyrule Warriors. Alors, dès qu'on commence à faire YYX, on se rend bien compte que c'est... c'est voilà. Faut quand même être un petit peu honnête. Hein.
Bah, pour rejouer à Breath of the Wild en ce moment, il tape pas aussi vite que ça, Link. Hein.
Non, il tape pas aussi vite que ça.
Quand t'as des Bokoblins par 12 000 en face, tu dis c'est bon.
Oui, voilà, c'est-à-dire que... Par contre, c'est étonnant parce qu'ils ont... Donc, ils ont repris toute la DA, y compris la musique, y compris le style des personnages, y compris leur façon de se mouvoir, y compris leur façon de tenir différentes armes, ce qui n'était pas forcément le cas dans le premier, où t'avais en gros les grosses armes et les petites armes, si je résume bien. Là, t'as vraiment, tu peux te battre quand tu te bats avec un marteau ou avec une lance ou avec une épée. Quand t'es avec Link, par exemple, c'est vraiment différent. Et chaque personnage a vraiment son propre style de combat avec des petites subtilités que tu avais un peu dans le premier, mais pas tant que ça.
Non, mais là, c'est clair et net. Il y a moins de persos, mais ils sont tous différents. Ils se jouent tous de manière différente. En fait, t'as toujours ce pouvoir, entre guillemets, sur la touche ZR qui fait que chaque personnage a une approche différente d'un autre. Et même pour Link, hein, s'il est équipé d'une épée, d'une la grosse épée, l'espadon là, ou d'une lance ou d'un marteau, à chaque fois c'est un personnage différent.
Ah oui, complètement, ça change complètement le style. Même jouer Zelda, qui est je crois le deuxième ou troisième personnage qu'on débloque dans le jeu. Le
troisième, ouais.
Voilà, c'est complètement différent. Elle se joue comme un mage finalement. Elle ne lance que des sorts. Elle se bat avec une tablette Sheikah, et oui. Donc c'est très compliqué.
Alors c'est très
manipulé.
Et si vous voulez pas vous décourager, petit indice, ça changera quelque part dans le jeu. Zelda, il y aura un 2 en 1 comme Link est un 3 en 1.
Et on nous dit dans le chat Team Urbosa, et je suis assez d'accord, Urbosa, elle a gardé ce caractère très... à la fois, je dirais, trapu. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle est très costaud, qu'elle est très bien campée sur pattes, qu'elle bouge pas aussi vite qu'un Link, par exemple, qu'elle tape très fort, mais elle est restée très agile. C'est assez agréable à jouer.
C'est un peu l'image qu'on a des Gerudo dans Breath of the Wild.
Exactement. Je trouve que c'est très bien retranscrit, en fait. Chaque prodige que tu vas débloquer, tu les débloques très rapidement. C'est les 4 ou 5 premières missions du jeu.
Chapitre 2, ouais, fin du chapitre. En fait, la démo qui est dispo s'arrête juste avant que tu débloques les prodiges.
Ouais, j'étais un peu deck d'ailleurs parce que je voulais débloquer Urbosa dans la démo. Mmh.
Là, c'est juste après.
Voilà, c'est juste après. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, on a effectivement beaucoup moins de personnages. Hyrule Warriors, ça faisait vraiment, enfin t'avais tout et n'importe quoi, puisque t'avais même la laitière du ranch long.
Bah à la fin t'avais Marine de Link's Awakening, qui est un personnage qui ne comprend pas du tout dans le jeu d'origine, mais genre pas du tout.
Non mais
du
si,
tout, faut la sauver.
C'est parfaitement cohérent. Je suis désolé. Dans l'histoire d'Hyrule Warriors, le premier, c'est parfaitement cohérent.
Oui.
Attendez.
On parle du jeu où la méchante est une fanboy de Link.
Oui. Non mais attendez. Je veux dire, Hyrule Warriors, c'était vraiment n'importe quoi, mais c'est plus ou moins assumé. Je veux dire, c'était le gros délire là. Tu sens qu'ils essayent quand même plus de coller à une espèce de, effectivement, de préquel.
C'est-à-dire que le scénar est plus terre à terre.
Ouais, enfin, il y a deux, trois trucs un peu pétés quand même.
Je veux dire, alors, le remontage dans le temps.
Alors, voilà, ça, on peut en parler parce que c'est franchement.
C'est même dans la démo, je crois.
C'est le début du jeu. Le petit robot sur la jaquette revient dans le temps. La scène où le château d'Hyrule est détruite, qu'on voit dans le jeu d'origine. C'est à ce moment-là où lui, il fait une espèce de portail pour revenir en arrière. Je sais plus à quel moment.
Mais... Oui, mais c'est ça, il se retrouve juste avant, à l'époque, en fait, des souvenirs qu'on voit dans Breath of the Wild. Et alors, pareil, le scénario, du coup, est cool. Enfin, ça, c'est la fête au fanservice. Hein. Il est très, très cool. Et je sais pas si vous vous rappelez, dans les précédents épisodes, on pensait qu'il y aurait un feeling un peu à la Xenoblade Torna. C'est-à-dire tu avances dans le scénario en sachant que ça va mal finir. Je suis pas très loin de la fin et sans spoiler, en fait, j'ai de plus en plus d'indices qui me laissent penser qu'ils ont dérivé, en fait. J'espère me planter.
Alors, je sais pas, parce qu'il y a une indication en tout début de jeu. Si tu relances une partie depuis le tout début... On te dans une des toutes premières cinématiques, peut-être même dans la démo, où on te dit voici l'autre histoire des prodiges. Donc ça ressemble plutôt à une espèce d'alternate story, en fait.
Ouais, parce que tu vois, on disait syndrome à la Terminator, j'aurais trouvé ça méga cool, et j'espère, encore une fois, je l'ai pas fini, mais j'espère que le petit robot, en remontant le temps, en essayant d'éviter le bordel, finalement finit par le créer. Là, plus j'avance, plus j'ai peur d'un syndrome à la Terminator, mais Terminator Genesis.
Oh, c'est pas si mal que ça.
Oui,
oui, mais ça va être chelou, oui. Je suis d'accord.
Ça va être bizarre. C'est pas déplaisant. C'est juste que c'est pas ce que j'attendais. Ça reste intéressant. Mais j'ai peur de rester sur ma fin. Pour vraiment la fin du scénario.
Ah, moi, je sais pas. Je suis vraiment pas... J'ai joué... Enfin, en gros, j'ai lancé hier soir pendant une grosse heure et j'ai dû jouer 3 heures ce matin. Et j'avais fait la démo avant, donc en fait j'ai refait des trucs que j'avais déjà fait.
Ok.
T'as
voilà, pas importé la sauvegarde ?
Non, j'ai pas importé la sauvegarde, non. Je l'avais effacé entre deux, donc. Mais parce que je savais pas qu'on pouvait l'emporter, en fait, bêtement.
D'accord.
Mais voilà, enfin c'était juste pour la petite histoire. Donc j'ai débloqué tout le début du jeu le plus vite possible et je suis monté le plus vite possible en niveau pour essayer de faire le plus de batailles possible, sachant que, comme dans le Hyrule Warriors original, si on revient un petit peu sur les questions, on va dire, de gameplay. Ça ressemble quand même beaucoup à Hyrule Warriors d'origine, donc l'idée c'est toujours la même chose, hein. C'est un Musou, donc c'est un beat'em all massif, dans lequel on a énormément d'ennemis à abattre, sauf que je trouve qu'il y a une petite subtilité supplémentaire, ça se concentre quand même beaucoup plus sur les gros ennemis, et ils ont tous des points faibles ou des façons de les battre un peu différentes, qu'il faut apprendre. De ce point de vue-là, c'est un peu plus original. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à Breath of the Wild quand on affronte le premier Linel du jeu. Mm-hmm. On se rend compte que finalement, les attaques sont à peu près les mêmes. Alors évidemment, c'est tourné façon Musou.
T'as une jauge de points faibles à faire descendre pour lui arracher une bonne partie de sa barre de vie.
C'est ça. Mais globalement, c'est un tout petit peu plus subtil que sur le premier Hyrule Warriors où c'était vraiment, faut battre les ennemis. Alors effectivement, tu battais des capitaines, mais tu battais presque de la même manière que les ennemis normaux. C'était juste un peu plus costaud.
Ah, mais ils avaient un skin différent, mais c'était tous les mêmes.
Voilà. Là, ils ont vraiment tous des capacités un peu différentes, et même entre les ennemis. C'est-à-dire, t'as les moblins, glacés, t'as les moblins de feu, puis t'as les moblins qui ont des haches, qui vont pas avoir les mêmes attaques que les moblins qui ont des lances.
Oui, oui. Voilà. Et ils ont aussi un élément. Je sais pas si t'as fait gaffe. Ça se voit rapidement sur les sorciers.
Oui, les sorciers, oui.
Sorcier de glace, tu les balances une boule de feu, il va prendre très très cher.
Ce qui est déjà un peu le cas dans Breath of the Wild original. Certains ennemis avaient des éléments, et si tu tirais avec la bonne flèche ou la bonne baguette, tu le tues en un coup.
Exactement. Mais ça, du coup, voilà, c'est un truc qu'ils ont repris, dans leur boucle de gameplay. Et c'est cool.
Bah, il y a aussi dans la démo, quand tu obtiens la tablette Sheka, je crois au milieu de la première mission, t'as un moment aussi où certains ennemis ont une icône de la tablette qui apparaît sur la tête.
Ouais.
Et si tu l'actives au bon moment, tu les stops et t'as la jauge à détruire là qui apparaît.
Et ça, faut en abuser. Faut vraiment en abuser. Faut en abuser, sinon les combats contre les gros... Contre les gros ennemis sont plus longs que ce qui devrait être. Quoi. En gros, quand le truc te dit attention, je vais te faire une attaque, mon point faible c'est ça, exploite le point faible, c'est jouissif et ça termine le combat plus vite. Quoi.
Oui, puis en plus, c'est extrêmement gratifiant parce que finalement, ça fait jouer à la fois tes réflexes. Enfin, tu vois, c'est vachement plus, ça va plus vite.
C'est nerveux. Oui, non, parce que la fenêtre de points faibles pour balancer un pouvoir Sheka, elle est courte. Hein. Elle est très courte.
C'est clair, il faut vraiment avoir le réflexe. Heureusement que quand tu appuies sur R pour choper le pouvoir Sheka, ça fait une espèce de ralenti, un peu comme quand tu choisis ton arme dans Doom. Ou...
Ouais.
Voilà, ça te fait un petit. T'as une espèce de petit bullet time où t'as un peu le temps de te reconcentrer et tout ça, mais il faut quand même le choper. Hein.
Ah, et puis surtout, ça fait un truc intéressant, c'est que dans le premier Real Wars, ça allait vraiment bourriner, et les armes annexes qu'on te filait, finalement, elles n'avaient pas trop d'utilité en dehors des 4-5 boss qui t'envoyaient le jeu, qui étaient d'ailleurs nul à chier à défoncer à cause de ça. Et là, du coup, j'ai l'impression que justement, le fait que t'aies la tablette, plus les baguettes spéciales avec des éléments, bah, ça permet aussi vraiment de fluidifier les combats, quoi.
Et de les diversifier un petit peu.
Ah, ça récompense l'observation et le timing plutôt que juste. Enfin, l'observation et le timing des attaques ennemies plutôt que juste bourriner et d'esquiver dès qu'il y a une attaque qui débarque. Quoi.
Ah, tiens, aussi un truc. Alors, je sais pas si c'était dans le Warriors 1. Dans celui-là, ils ont repris l'esquive de Just in Time.
Ça y était dans le 1.
Ça y était ? Ok.
Par contre, j'ai l'impression que la frame est beaucoup plus serrée parce que j'ai pas réussi à en exécuter.
Ah, mais à chaque fois, moi, c'est sur un coup de bol.
Alors moi j'irais pas non, sur un coup de bol, mais il y a quand même un timing assez serré. Kirill Warriors, l'épisode de la subtilité, j'ai un peu jusque là. Hein.
C'est le nom du test à paraître.
Mais challenge accepted.
La prochaine fois sera l'épisode de la maturité ou un truc comme ça.
Ouais voilà, on retente un truc comme ça. Et ensuite on fera l'épisode entre tradition et modernité.
Entre tradition et modernitron.
Et du coup. Moi, j'ai fait que la démo, par exemple. Mais est-ce que le jeu complet, on se retrouve face à un add-on au jeu à Breath of the Wild, dans le sens où est-ce que c'est se replonger dans un univers qu'on aime bien, on fait le jeu et on en ressort, on n'a pas retenu grand-chose, mais c'était cool parce que c'est un univers qu'on affectionne, ou alors c'est un vrai jeu à part entière au sens de c'est une proposition qui peut se tenir à elle-même et on peut finalement quelqu'un peut entrer dans l'univers de Breath of the Wild par cet épisode.
Eh ben je dirais les deux.
Alors ouais j'ai un peu envie de te dire les deux, c'est-à-dire que d'une certaine manière si t'as adoré Breath of the Wild, je pense qu'il y a des choses à en récupérer, ne serait-ce que
toutes les cinématiques.
Voilà, c'est le fan service à qui
et
mieux.
Et puis tu vois Hyrule avant sa destruction surtout. Hein.
C'est ça. Alors même si je trouve que les cartes sont les cartes de Hyrule Warriors, le premier était pas oufissime.
Voilà, on peut dire que c'était de la merde.
Non, il y en a qui étaient pas mal, mais là je les trouve. Alors surtout, je sais pas, genre la 2e ou 3e carte était hyper confuse.
Alors ça c'est très varié après. C'est ça. On retrouve à tous les endroits clés du scénar de Breath of the Wild et c'est cool. En fait, tous les souvenirs de Link que tu débloques dans Breath of the Wild, alors peut-être pas tous, mais allez, 9 sur 10, tu vas les visiter dans un niveau.
Voilà. Et ça, c'est cool. Alors, t'as plus de variété, je trouve, aussi dans les ennemis, t'as plus de variété dans les situations, t'as plus de variété dans les personnages, dans les objectifs. Donc, de ce point de vue-là, c'est mieux foutu. Maintenant, si tu le regardes d'un peu loin et que tu plisses les yeux, ça reste un mousseau. C'est-à-dire que, même si t'as un peu plus de variété, d'une mission à l'autre, c'est pas non plus. Enfin, ça reste toujours taper, 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 quoi.
Oui,
peux quand même pas.
Même dans la progression, dans la démo, ça s'est vu assez vite. J'ai retrouvé des trucs classiques des mousseaux à base de bah, faut rassembler des éléments pour upgrader ton personnage qui ait plus de vie. Il y a des armes augmentées, il y a les combinaisons. Et moi, c'est les trucs qui m'ont fait dire, finalement, c'est pas très différent, en fait.
Non, c'est la même chose, mais c'est présenté... tu vois, sur le Warriors ou le Fire Emblem Warriors, le système de badgerie là, que tu évoques pour aller débloquer les combos ou augmenter tes barres de vie, c'était un menu à part. Fallait aller le chercher et puis avoir les bons éléments pour le débloquer. Là, ça t'apparaît comme une petite mission sur la carte d'Hyrule.
Ouais, ça c'est le côté cool. Je pense que c'est aussi une volonté d'émuler un peu le côté... tu te balades et tu trouves des trucs un peu au hasard dans Breath of the Wild. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu ça, où tu es sur la carte et tu trouves des trucs que tu peux débloquer. Et bah, au pire, tu les débloqueras la fois d'après, c'est pas ce qu'il faut. Quoi.
C'est ça. Et du coup, en fait, pareil, dans les précédents Warriors, tu avais le mode aventure, tu sais, avec ces petites missions de 5-10 minutes. Là, elles sont intégrées dedans.
Oui.
Et ça te permet en fait d'aller grinder un peu d'XP ou de
t'entraîner avec une arme particulière ou avec un personnage
ou
particulier.
Avec un personnage. Vince demande si c'est moins fin de service dans les personnages. Alors il y en a moins. Il y en a moins que dans le précédent Warriors avec tous les DLC. Mais t'en as aucun qui est un calque d'un autre. Ils sont tous différents.
Ouais.
Et côté fanservice, alors ça par contre je ne le spoile pas, mais j'ai débloqué deux personnages, à mon avis complètement optionnels, et si par contre là niveau fanservice et personnages optionnels, ils sont bien pétés. Dont un en particulier, je pense qu'ils ont juste fumé quand ils l'ont implémenté.
Alors il y a quand même deux, trois trucs un petit peu surprenants hein, au passage. Je ne m'attendais pas, alors je sais pas si c'est dans la démo, peut-être pas, je ne m'attendais pas à contrôler les créatures divines.
Oui, chapitre 2. Ouais, ouais.
Voilà.
T'as aimé les gros chiffres?
Ah, il y a les gros chiffres.
T'appuies sur le bouton, tu vois 300 KO d'un coup.
C'est ça, ce voilà. C'est le grand n'importe quoi. Ça
c'est
rame à mort,
divine,
d'ailleurs.
C'est des Gundam.
Ouais.
Ouais, c'est ça, mais en plus, alors le problème c'est que c'est des sections qui rament à mort, qui sont absolument pas intéressantes d'un point de vue gameplay,
non,
parce que finalement tu vas d'un point A à un point B.
Les 4 sont différentes. Mais au final, c'est proche et elles sont pas très intéressantes.
Ouais, c'est pas ouf, quoi.
Heureusement, c'est court. Hein.
Oui, voilà, c'est l'idée est rigolote, mais ça va pas plus loin que ça.
Alors, l'idée est rigolote, mais dans la manière dont c'est inclus dans le scénario, t'as un petit côté épique qui fait que tu te prends vraiment au jeu.
Oui, ça, par contre, je suis d'accord. T'as envie d'aller casser des fesses. C'est pas forcément hyper intéressant, mais t'as envie d'aller casser des fesses. Y a un autre petit truc que moi j'ai noté aussi, c'est que effectivement tu disais que les missions secondaires, finalement, l'espèce de mode carte entre guillemets, était plus ou moins inclus dans l'aventure.
Ouais.
J'ai vu aussi que tout ce qui était menuing, on va dire de manière générale, était bien plus rapide. C'est-à-dire que là, aller entraîner les gens, aller entraîner tes différents personnages pour les monter au bon niveau.
C'est des accès rapides.
C'est ça, t'as que des accès rapides, ça va super vite, même le forgeron va beaucoup plus vite qu'avant.
Ouais.
Parce que dans Hyrule Warriors, c'était un peu le cauchemar, fallait passer dans 50 menus pour aller optimiser le truc. C'est un peu le bordel, c'est la fête au menu merdique. Là, ça va quand même nettement plus vite, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus intuitif, ça a été un peu simplifié, je pense aussi. En tout cas, c'est l'impression que ça donne.
Pour les composants, je sais pas si tu l'as débloqué, mais dans la zone vers le laboratoire, là en haut à droite,
oui.
Assez rapidement, t'as le détecteur Sheikah.
Oui, tout à fait.
Et en fait, tu peux, sur une mission, activer ce truc et il va te mettre un petit ping, un petit rond vert clignotant sur les missions à faire si tu veux débloquer les composants qui vont te permettre de débloquer ce que tu veux.
Oui, t'as pas mal de trucs comme ça. C'est pareil, t'as plein de magasins qui sont très simples d'accès ou si t'as besoin d'aller acheter 3 herbes, 2 carottes. Enfin voilà. Alors il y a une question quand même que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont eu accès aux assets de Breath of the Wild pour faire des copies aussi parfaites ou est-ce
ben, j'espère, hein,
je pense.
Que... Ouais.
Parce que là il y a vraiment absolument tout.
Non mais j'espère.
Je pense que par rapport au premier Hyrule Warriors, ils ont eu Nintendo beaucoup plus au cul que les autres fois parce que Breath of the Wild c'est un peu devenu genre le Zelda divin après 20 ans d'Ocarina of Time et ils ont pas juste envie qu'un mousseau plante tout, tu vois.
Alors il y a un truc qu'ils ont pas repris, je fais peut-être une transition rapide, peut-être on reviendra sur le scénario ou sur autre chose, il y a un truc qu'ils ont pas repris, c'est la musique. Et...
Bah, il n'y en avait pas dans Breath of the Wild.
Bah voilà, ouais, voilà. J'avais fait la blague pour un jeu qui avait pas de musique, t'as cité la liste des compositeurs qui ont fait des reprises de toutes les zik, et il y en a un paquet en fait, hein. Et elles sont vachement bien.
Alors là, on a les compositeurs, les arrangeurs, il y a tout le monde. Hein. C'est toute l'équipe. Ouais, voilà. Parce que malheureusement, ils ne sont pas crédités un par un sur chaque morceau. Ils sont crédités comme une équipe.
C'est souvent comme ça, tant que la BO n'est pas sortie au Japon.
C'est en général souvent comme ça, donc c'est pour ça que j'ai mis tout le monde. Donc là-dedans, effectivement, il y a probablement des arrangeurs, il y a des compositeurs originaux, il y a des arrangeurs, il y a des repreneurs, enfin ça va ratisser un peu large.
Bah, maintenant, déjà, le vrai Sozwell original avait 3-4 personnes, hein, juste pour la composition.
Qui s'écrasaient le front sur un clavier de piano qui était à peu près...
mais quel bâtard.
Non, mais la musique de Breath of the Wild, elle est discrète, mais elle est là quand même. La preuve, quand la BO est sortie, elle faisait quand même 4 CD. 5. Hein.
5.
Ah, ouais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bons thèmes dans Breath of the Wild.
C'est très très joli comme musique, et je trouve que c'est très discret. Ça accompagne parfaitement le gameplay. Quoi.
Bah en fait, elle est discrète quand t'es sur la plaine, mais quand t'es dans les villages et compagnie, elle est tout à fait présente. Hein.
Les approches des bêtes divines, mais ça te foutait un frisson à chaque fois.
C'est ça, hein. c'est vraiment que dans la plaine d'Hyrule, enfin dans le grand overworld, il y avait très peu de musique qui était très discrète.
C'est pour te laisser écouter le bruit de la nature.
Bah en fait surtout que
c'est le souffle sauvage.
Sauvage. Bah surtout qu'en fait au bout d'un moment la même musique en boucle, c'est insupportable.
Ça on est bien d'accord. Mais du coup oui là les musiques sont étonnamment bonnes aussi. Enfin j'ai trouvé le peu que j'ai entendu de BO très 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 agréable.
C'est tout le long hein. Comme disait Antix, c'est vraiment dans l'esprit de Breath of the Wild, ils n'ont pas justement fait des grosses reprises métal bien, bien baveuses.
Ouais, qui était un peu au bout d'un moment, Hyrule Wars, c'était ah non, mais c'est juste une guitare électrique sur un thème de Zelda.
C'est ça. Enfin, faut pas se cacher, c'est ça.
T'as un petit côté symphonique et puis même des fois piano discret qui est cool.
Bah, voilà, au global, moi, c'est un peu ça l'impression que ça me donne du jeu. Alors, je l'ai pas fini, j'en suis même, je pense, relativement loin.
Il y a 7 chapitres. Je suis à la moitié du sixième.
Ça fait à peu près combien d'heures de jeu, ça ?
Alors, avec le grinding, j'en suis à 28.
C'est tout à fait raisonnable.
Mais j'ai pas encore... J'ai essayé de faire le maximum de quêtes annexes, de petites missions de 5-10 minutes, sur mes pauses ou des trucs comme ça, pour être au niveau conseillé pour le chapitre d'après.
Ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce que je... Enfin, il y a 2-3 ennemis et 2-3 capitaines et machin comme ça qui sont bien costauds, on va dire.
C'est ça, et si tu veux pas pleurer du sang, il vaut mieux être au niveau que le jeu te conseille avant d'attaquer une mission.
Ouais, sinon, clairement, il y en a certaines sur lesquelles tu rôdes du sang. Hein. On va être, être très clair là-dessus.
Ça permet de diluer un peu le scénario. Parce que le scénar va avoir tendance, en fait, d'un chapitre à l'autre à faire des petites ellipses. Donc si tu t'es calé tes missions entre temps, ça va, ça met du liant en fait si tu veux. Et puis même en faisant ces missions pour augmenter ton XP de manière naturelle, tu vas économiser de la thune qui pourra te servir à autre chose. Parce que ta thune, tu pourrais tout à fait la claquer si t'as pas envie de t'embêter.
Oui, t'achètes des niveaux.
Hein, c'est le personnage qui te permet d'acheter les niveaux, voilà.
C'est ça. Ce que en réalité, t'es un peu obligé de faire de temps en temps, parce que tous les personnages que tu n'embarques pas en mission vont gagner beaucoup moins d'XP, donc il y a des moments où t'es obligé de les rattraper.
Parce qu'il y a des chapitres qui vont t'imposer des personnages.
Exactement. Et si tu te retrouves avec... Enfin, t'as un chapitre qui dit niveau minimum recommandé 25, et puis ben, t'as un personnage qui est à 8, tu vas en chier des bulles carrées, hein.
C'est clair.
Et pas qu'un peu.
C'est clair.
Bref. Je sais pas si ça vaut le coup de détailler un peu les personnages et choses comme ça. Vont peut-être mieux laisser les gens découvrir un peu, d'autant plus que.
Découvrir, ouais. Alors, Impa, je reviens dessus. Voilà, Impa, c'est génial. Ce qu'ils en ont fait, c'est excellent. Donc, la petite vieille que t'as dans Breath of the Wild, là, tu la vois, elle a genre 20 ans. Et quand le premier perso que tu contrôles dans le jeu, c'est Link. Donc, t'es en terrain connu. Hein, c'est taper attaque normale et.
Taper.
Taper attaque forte. Et son R, c'est un arc. Sachant que si t'es en l'air. Ah oui, tu peux faire des sauts muraux. Ça, c'est très très cool.
Oui, alors moi, ça m'a plus confusé qu'autre chose. Parce qu'au final, ça sert pas à grand chose. Et des fois, ça se déclenche à des moments un peu aléatoires.
Hein. Non, c'est toujours quand t'es à côté d'un mur. Et justement, Link, si tu balances son arc pendant que t'es en l'air, il tire, je crois, 2 fois plus de flèches. Enfin, c'est rigolo quoi. Et Impa, c'est le deuxième personnage qu'on te donne la possibilité de contrôler, et c'est à ce moment-là que tu comprends que chaque personnage va avoir un gameplay différent. Et elle, en fait, c'est Naruto quoi. son ZR, elle met un petit symbole au-dessus d'un personnage. Le jeu va ensuite te proposer d'appuyer sur le bouton attaque forte pour absorber ce personnage et absorber le symbole. Et du moment que tu as absorbé le symbole, donc jusqu'à un maximum de 3, tu as en fait une armée de petits spectres qui va être à côté de toi, qui va faire que tu vas taper plus fort.
Ah d'accord, c'est ça que j'avais pas compris. Okay.
ZR pour poser un symbole, X pour absorber le symbole.
Et ensuite 3, tu te multiplies et t'en as autant.
Tu te multiplies et quand t'as les 3 symboles à fond, ton attaque, celle qui est sur le A, là, celle avec la jauge
chargée, la grosse attaque, ouais.
Elle est beaucoup plus puissante. Elle est beaucoup, beaucoup plus puissante.
Ah, et puis même ces attaques, ces fins de combo avec X, t'as genre, ce que j'avais vu dans la démo, il y a beaucoup plus d'attaques à l'écran, quoi.
Ouais, non, mais il y en a un paquet et il y en a une qui est très très drôle. Allez, celle-là, je la spoil, c'est pas grave. Ça doit être le deuxième ou troisième combo fort qu'on débloque.
Avec le paravoile ?
Non. T'as une grenouille qui tombe du ciel et qui éclate le mec au sol, quoi.
Parce que dans la démo, il y avait le. Tu pouvais la faire attaquer et après elle planait en paravoile en balançant des bombes.
Ouais, tu peux. Ouais. Enfin, tu peux même le faire que tes petits spectres balancent les bombes aussi.
C'est ça, et en fait, quand t'avais les spectres, ils étaient tous en ligne à balancer des bombes, t'as une armée d'avions bombardiers.
C'est très drôle à regarder.
T'es là, genre, ouais, ils ont du sport.
Ça illustre bien d'ailleurs la diversité des personnages, parce qu'effectivement Impa se joue absolument pas de la même manière que Link, qui se joue absolument pas de la même manière que Daru, qui se joue absolument pas de la même manière que Urbosa.
Que Zelda. Ouais. Alors Zelda c'est le personnage des pro-gamers. Hein.
Ah, franchement c'est hyper compliqué.
Mais
surtout
par contre
que...
une fois que t'as compris comment ça marche, tu rigoles. Les ennemis, tu joues avec eux.
Ah, tu jongles avec eux, littéralement. Mm-mm. Ça, c'est clair. Mais putain, faut arriver à les placer. Hein.
Ce qui est assez déstabilisant, c'est que... Je crois qu'on n'en a pas trop parlé, mais elle se bat avec la tablette Shaker. Donc en fait, si, elle invoque les pouvoirs pour se battre.
C'est ça.
Et du coup, il y a un truc un peu plus... genre Link, qui se bat avec une épée, c'est très continu. Et elle, c'est beaucoup plus haché, en fait, j'ai l'impression.
Elle tabasse les ennemis avec la tablette.
Non, c'est exactement ça.
En gros, c'est pas si compliqué que ça. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les précédents Warriors... C'était en gros coup faible, coup faible, coup faible, et quand t'en avais marre et que tu voulais terminer ton combo, tu mettais un coup fort.
Oui.
Bon, bah Zelda, les coups faibles vont enchaîner les pouvoirs, et quand il y a celui qui t'intéresse, là tu peux faire coup fort, coup fort, coup fort.
Voilà, et du coup, par exemple, si elle a fait l'aimant, pour donner les deux premiers coups, elle a fait un aimant, puis ensuite elle a fait 2, 3, 4, 6 blocs de glace, quand t'appuies sur le coup fort... Les blocs de glace explosent et ils font des dégâts de zone et ça commence à être le bordel. Donc il y a moyen de la jouer, il y a moyen de la jouer super intelligemment, mais ça exige de réfléchir, ce qui dans un mousseau est quand même compliqué. Je veux dire, normalement tu débranches le cerveau, tu le laisses sur la table et puis voilà. Là non, t'es quand même obligé de te prendre un peu la tête.
Mais voilà, elle est originale et ça fait plaisir.
Et tous les personnages sont comme ça, et ça c'est quand même... Pour moi c'est un des attraits du jeu, vraiment, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire des... Tu peux faire des combos de perso bourrin, c'est-à-dire tu fais un Link Urbosa, et puis tu bourrines tout le jeu tranquillement, traditionnellement, mais si tu veux te marrer un peu, tu fais un Impa Zelda, et tu peux finir le jeu avec, hein. Ouais. En théorie, ça marche.
Le Link Espadon, tu verras, il y a des missions d'entraînement qui t'imposent d'avoir une arme particulière, le Link Espadon, c'est un régal.
Oui. Déjà, le Link à la lance, ça se joue tellement différemment d'à l'épée, t'as tellement plus le même rythme et tout ça.
Oui, oui.
Ça fait très très bizarre. Et pareil, Revali est très curieux à jouer, par exemple.
Oui, pareil, il a deux gameplays en un, lui.
C'est ça. Ouais.
Ah ouais ?
Oui.
Bah, en fait, t'es au sol, soit t'es en l'air.
Trop bien.
Et du coup, c'est assez cool à jouer parce qu'effectivement, au sol, tu vas faire des combos à l'arc, finalement, assez classique.
Puis très court.
Très court. Quand t'es en l'air, tu peux faire des combos beaucoup plus longs parce que t'es beaucoup moins interrompu par les mecs qui te tapent sur la gueule. Tu t'es un peu plus libre de tes mouvements, mais comme t'es un peu plus en hauteur, il y a des trucs qui sont plus compliqués à faire. Mmh. Ah, bref, c'est vraiment pas inintéressant.
Je trouve ça cool qu'ils soient quand même allés jusqu'à reprendre les différents styles de Link dans Breath of the Wild. Parce que moi, après, j'imagine que passer un moment, quand t'as la Master Sword, tu ne vas que avec l'épée et le bouclier. Mais...
Alors, oui, c'est ce que j'ai fait, mais je me suis quand même marré à me battre à la louche ou au râteau.
ça fait bien,
oui, j'ai vu qu'ils avaient mis une bonne partie des armes un peu gag de Breath of the Wild aussi, genre la branche.
Elles y sont, ouais. T'as même les armes des beaux gobelins, leur masse à la con.
Ouais. Et le pire, c'est que ça a un gameplay particulier. Hein. Mm. C'est que ça se joue pas pareil, le bâton se joue pas pareil que la casserole. Mm. Alors que pourtant, instinctivement.
Et puis ça voilà. Te change les coups fatals, ça change un peu les animations. C'est très très cool.
C'est assez cool, donc c'est, voilà, on va résumer un petit peu, donc Hyrule Warriors Age of Calamity, c'est du fanservice,
Ah mais il y a une cinématique à chaque début de chapitre, c'est à chaque fin chaque et fin des fois au milieu.
Je crois qu'il y a quasiment 2h30 de cinématique au total, un truc comme ça.
Ouais, la vidéo YouTube de toutes les cutscenes fait 2h30.
Le doublage français est excellent.
C'est les mêmes acteurs que pour Breath of the Wild.
Est-ce que c'est pas un peu répétitif quand tu fais les attaques pour les personnages qui parlent, tous ceux qui s'appellent pas Link, de juste les entendre toujours dire la même phrase à chaque fois que tu fais une super attaque?
Tu fais plus attention au bout d'un
pas
moment.
Pas plus que dans un Xeno.
Ok, voilà. C'est pas faux. Mais c'est vrai qu'en français, c'est comme tu comprends vraiment ce qu'ils disent, tu dois être un peu genre... Ah, c'est bien chelou, enfin, je rentre pas au bout d'un moment. Alors, c'est bizarre.
Il y a un personnage où j'essaye de le jouer le moins souvent parce que sa voix m'insupporte. Vous le verrez, c'est le chapitre 4. C'est particulier. Ah, il y a les Korogu aussi qui sont planqués.
Oui, enfin bon. C'est...
Non, et une feuille.
Et bah, ça sert. Tu verras, ça sert.
Oui, ça sert. Tu débloques des trucs avec moi. Par contre, c'est un petit peu bidon quand même.
C'est quand même des caca.
C'était pour le principe.
Tu verras, pour moi ça sert.
Enfin, en tout cas, un jeu très cool, et donc je maintiens, hein, je vous enverrai le lien après parce que j'en ai parlé au début. Donc en Suisse, oui monsieur.
Attends, mais envoie le lien à Galaxies, comme ça elle le mettra sur le, ah, sur le direct.
Je vous l'envoie, là, c'est un tweet rigolo. Attendez, je
vais le mettre. Ah oui, bien sûr, oui. Que je le mette.
Ça sent le hamster joueur.
Non, c'est pas le hamster joueur. Et voilà, le temps que je récupère. Donc effectivement, en Suisse, où on parle plein de langues différentes, hein, comme vous le savez. Non, je vais vous mettre celle-là, parce que ce sera plus simple. Donc en Suisse, il y a les trois titres. Donc il y a l'ère du fléau, Zeit der Verehrung, qui est donc l'ère du fléau, mais en allemand, et l'ère de la Calamita, qui est donc l'ère du fléau. Voilà. Et visiblement, alors je ne sais pas quel pays c'est, mais c'est peut-être Andorre ou un truc comme ça, où tu as Edge of Calamity et la Era del Cataclismo. ça par contre, je ne sais pas quel pays c'est. Je pense que c'est de l'espagnol, mais je ne sais pas, un pays où on parle anglais, espagnol, ça me paraît bizarre.
L'Amérique du Sud.
C'est peut-être en Amérique du Sud, ouais. Mais c'est possible. Voilà. Et en tout cas, c'est assez rigolo. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas choisi de juste appeler Edge of Calamity et puis point trait, mais bon.
Bah, vu que tout le jeu est en français,
c'est
en local, je pense qu'ils ont mis en local aussi. Hein.
Mais du coup, ça déforme complètement la pochette, enfin, c'est quand même assez lamentable.
Bref, l'Europe, quoi.
On va s'écouter deuxième petit extrait de la bande originale de Hyrule Warriors Age of Calamity, donc, qui s'appelle The Battle of Hyrule Field. Pour les compositeurs, arrangeurs et mixeurs, je vous renvoie à la première musique, je ne vais pas recommencer. Bref, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et on va parler un tout petit peu des Game Awards 2020, puisque la cérémonie des Game Awards 2020, c'est semaine prochaine, genre.
Surtout, je crois que c'est la première fois qu'on parle vraiment des Game Awards.
Bah, on n'en a jamais parlé jusqu'à présent, mais là, il y avait deux, trois trucs un tout petit peu intéressants, c'est pour ça que je me suis dit...
Est-ce qu'on résumera pas ce que sont les Game Awards pour commencer à...
Eh bien, les Game Awards, c'est une cérémonie de merde sponsorisée par des cons... pour déterminer qui c'est le jeu de l'année.
Et avec un super orchestre.
Mais avec un orchestre.
Ouais. Certains diront que c'est aussi un petit peu l'école des fans, puisque finalement, bah, tout le monde repart avec son prix.
C'est un peu ça. C'est l'industrie qui s'auto-congratule un petit peu.
En plus, ça a été fait en 2014 la première fois, d'après le site. Et c'est... je sais pas si j'ai réussi à le prononcer correctement. Geoff Keighley.
Ouais.
Dont le nom ne dira peut-être rien, il est connu pour être Monsieur Doritos. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas de cette histoire, c'est là où les problèmes, les polémiques de collusion entre journalistes et marques ont commencé à émerger dans la presse anglo-saxonne. C'est à partir de lui.
Et française après.
Bah, et française après.
Et partout en fait, ça a éclaboussé.
Bah, en fait, on était tous plus ou moins au courant, c'est juste que là, c'est devenu trop évident, quoi. Mais voilà. Donc voilà, c'était juste pour faire un peu le résumé. Mais, bizarrement, ça a fonctionné et d'année en année, ça devient de plus en plus régulier. Enfin, un truc assez attendu parce que, en fait, bon, alors on s'en fout royalement. Hein, à mes yeux, moi, je m'en fous toujours très royalement des nominés. Quand je regarde pour la forme, je m'en fous un peu. Mais surtout, l'industrie en profite aussi pour balancer des trailers et compagnie.
Ouais, ça arrive qu'il y ait des
reveals. Ouais. Bah, notamment Bayonetta 3.
En avant-première. Ah.
Bayonetta 3, qu'on ne sait pas s'il est encore en vie, hein, a été présenté au Game Awards.
En avant-première, il y aura une visite de la nouvelle carte d'Among Us. Ça a été annoncé tout à l'heure.
C'est une blague.
Non, non, mais ce qui en vrai, me hype énormément, puisque la carte a l'air incroyable. On en reparlera.
Ouais, voilà, ils doivent rire, les mecs, ils doivent rire.
C'est... Abonnez-vous.
Voilà, mais t'as quand même une annonce sympa, type la Xbox, enfin, le design de la Xbox Series X a été présenté l'année dernière. Joker a été annoncé pour la première fois, a été annoncé au Game Awards. Donc ça reste une cérémonie qui même si c'est pas un autre
E3,
a son long d'annonce sympa, tu vois. Donc ça vaut toujours le coup de jeter un coup d'œil. On aura peut-être des trucs sympas cette année.
Il y aura peut-être des trucs sympas cette année. Je voudrais qu'on évacue tout de suite un truc qui m'a paru extrêmement bizarre.
Il y a un jeu de 2018.
Alors, bon, ça on en parlera un tout petit peu après. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu la quantité de catégories e-sports qu'il y a. Je ne m'étais jamais vraiment intéressé au truc, mais j'ai l'impression que c'est pire que l'an dernier.
Ouais, ça change toutes les années et là, ils ont mis le paquet.
Là, tu as la meilleure équipe e-sport, le meilleur hôte e-sport, là, au sens présentateur. Comme un présentateur télé, on te dirait le meilleur Jean-Pierre Pernaut.
Alors, l'équipe et l'autre, ça y était déjà.
Le meilleur jeu e-sport, ça avait déjà
ça
aussi.
Ça, c'est normal.
Le meilleur événement e-sport.
Il y avait aussi.
Le meilleur coach e-sport.
Il y avait aussi.
Le meilleur athlète e-sport.
Il y avait aussi.
C'est marrant, j'ai regardé toutes les catégories avec tous les nominés, je connais pas un seul connard dedans.
Ah bah, si tu t'y intéresses pas, c'est normal. Hein.
Ah ouais, non, mais là, c'est violent, quoi.
Bah, ça va avec le côté un petit peu chaud de Game Awards.
Ouais, enfin, c'est un peu n'importe quoi, quoi.
Bah ouais, mais l'e-sport, c'est ce qui est un peu en vogue en ce moment. Hein,
est-ce que ça l'est toujours, en fait ? C'est moi qui me...
Bah, j'ai envie de te dire, avec le fait que le sport traditionnel a quasiment eu une année d'hiatus et a dû annuler deux de ses compétitions majeures cette année, ouais.
Petit peu, peut-être, mais bon.
Il n'y a pas eu de Jeux Olympiques ni de
retour. Oui, les Jeux Olympiques, qui sait que ça intéresse pour de vrai, quoi.
Bah, le CIO, parce que vu les thunes que ça rentre.
Ah oui, non, mais ça d'accord, mais je veux dire, en dehors de...
Les marques qui sont partenaires et les villes concernées.
Et ces gars, ils vont devoir renommer leur jeu, putain.
Non, alors, ils ne le feront pas, ils ont déjà dit qu'ils ne le feraient pas. Alors, on va passer sur les catégories qui seront obligatoirement gagnées par des jeux de merde, genre Last of Us Part 2, ou Final Fantasy VII Remake, ou Ghost of Tsushima, parce qu'on va être très clair, il y a des jeux qui seront gagnés.
C'est très bien, Final Fantasy VII Remake.
Ah oui, j'allais dire, c'est apparemment, il est très très bien.
J'allais dire, c'est bien Tsushima, mais FF7 Remake, je suis pas d'accord.
Bah, en fait, FF7 Remake, il mérite au moins de gagner la meilleure musique.
Ça oui.
Je sais pas, il y a Doom Eternal, hein, quand même, hein, sur les rangs. Qui en termes de musique, voilà, comme le premier Doom.
Ah, mais ça c'est Game of the Year. Il y a Hades aussi.
Il y a aussi Hades hein, dans la meilleure musique. Et Hades c'est vraiment cool.
J'avoue que, mais je sais pas si ça mérite meilleure musique, hein, Hades.
Non, peut-être pas à ce point. J'avoue qu'FF7 c'est la Madeleine de Proust. Hein. Très.
Je suis sûr qu'FF7 va gagner au moins un prix parce que de toute façon tout le monde l'attend tellement depuis tellement longtemps que ce serait triste qu'il gagne. Enfin,
de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que les plus gros jeux de l'année au Game Awards gagneront forcément quelque chose.
C'est ça.
Donc en fait, les 6 qui sont en Game of the Year, il y a celui qui a gagné Game of the Year, et puis les 5 autres gagneront un truc à un autre endroit.
C'est ça, en fait.
Peut-être pas Ghost of Tsushima, parce qu'il est assez oubliable, mais...
Bah, en même temps...
Je sais pas, regarde, l'année dernière, ils ont bien fait gagner des trucs à Death Stranding.
Mais c'est pareil, hein, The Last of Us partout, il y a tout un tas de gens qui ont soufflé à l'oreille qu'effectivement, les questions de performance, donc il y a une espèce de section meilleur acteur, meilleure performance au sens... performance d'acteur.
Ouais, c'est fait pour.
Où Last of Us Part 2 mériterait largement d'être dedans parce qu'effectivement, il y a quand même un énorme boulot d'acting derrière.
Bah, il y en a deux des personnages dedans dans Best Performance.
Voilà, il y a deux. Donc, t'es à peu près sûr qu'ils en gagneront un là-dedans. Est-ce que ça mérite le jeu de l'année ? Il y a plein de gens qui disent ouais, c'est quand même très discutable, on va dire. Bref, donc moi, je voulais parler des catégories un tout petit peu plus intéressant.
Juste quand même pour dire que, et ça c'est assez cool, c'est comme en 2018 je crois où on avait Céleste dans les jeux de l'année, on a un autre jeu indépendant dans les jeux de l'année qui est Hades.
Hades, oui, tout à fait.
Dont on parlait tout à l'heure. Ce qui prouve que, ben ouais, j'ai pas dit que des conneries, quoi. Ou alors ils ont bon goût, quoi. Dans, c'est, non, dans le sens que vous voulez.
Je sais pas, c'est difficile à interpréter, hein.
Oui, mais ils ont mis FF7 Remake, donc je leur propose d'aller faire un test Covid parce qu'ils n'ont plus de goût.
Alors, ceci dit, si on devait se baser sur tous les jeux qui sont sortis cette année, je pense que le jeu de l'année, ça devrait soit être Among Us, soit Animal Crossing.
Je rappelle que Among Us n'est pas sorti cette année.
Non, mais il a explosé cette année.
Oui, mais je suis désolé, dans ces cas-là, le jeu de l'année, c'est Breath of the Wild pour la 4e année consécutive.
Ça pourrait.
Ouais, du coup, c'est Mario Kart 64 comme chaque année depuis 96.
Voilà, je ne vois pas. Among Us n'a rien à foutre là. Je suis désolé si les mecs ont pas été foutus de le dégoter il y a 2 ans et qu'en fait, parce que c'est devenu plus ou moins un mème, on le met cette année.
Bu. Comment ça?
Ça n'a aucun sens.
Alors, c'est pas un mème, mais... c'est un vrai phénomène. Pour le coup, c'est un vrai succès ouais, social,
mais
ce jeu.
Ça a plus de sens à ce niveau-là. Il est dans quelques trucs, genre il est dans le meilleur multijoueur, je crois. Effectivement, ça se justifie parfaitement parce que c'est un jeu qui a été totalement pensé pour ça. Exclusivement pensé pour ça.
Multiplayer et mobile.
C'est ça.
Ah bah oui, si vous y jouez tout seul à Among Us, autant vous dire que la partie, elle va pas faire long feu.
C'est pas très intéressant. Mais c'est assez intéressant le cas Among Us parce que... alors, les Game Awards, en fait, ils arrêtent, je crois, généralement au novembre de l'année, ce qui fait qu'en fait, les jeux qui sortent en décembre sont sur l'année d'après. Oui. C'est pour ça que, en fait, Smash Bros. A gagné meilleur jeu de baston de 2019 alors qu'il sortait en 2018.
Oui, parce qu'il était sorti le 12 ou 15 décembre, une connerie comme
ça. Ouais, ça, il était sorti début décembre. Mais du coup, là, Among Us, c'est vraiment la première fois où t'as un jeu qui n'est pas sorti dans la tranche annuelle des concernés par les Game Awards, qui est présent aux Game Awards.
Mais j'ai quand même l'impression que c'est...
En dehors des jeux qui sont en dehors de la catégorie meilleur suivi, hein, parce qu'il y a celle-là aussi.
Oui, parce qu'il y a celle-là aussi qui est d'ailleurs pas inintéressante, on y reviendra.
Ça, je trouve qu'elle est intéressante, par contre.
Donc, enfin, je suis désolé, Among Us, je dis pas que c'est l'erreur de casting, hein, je comprends pourquoi ça y est, mais ça ressemble quand même à surfer sur la vague du truc et pas du tout essayer de faire son boulot sérieusement.
Ouais, c'est un phénomène de l'année, un truc comme ça.
C'est ça. Et c'est un petit peu comme si tout d'un coup, à la cérémonie des Oscars, on prenait un film d'il y a 15 ans qui est devenu culte entre deux, alors que tout le monde a chié dessus le jour de sa sortie et qu'on lui filait un prix.
C'est le cas en fait de pas mal de films devenus cultes, hein, en vrai, quand tu y réfléchis.
Bah ouais, mais qui ont jamais reçu de prix a posteriori, hein.
C'est ça. Non, c'est vrai que pour le coup, je trouve ça assez étrange. Enfin, en soi, ça se défend parce que c'est un peu un des phénomènes de cette fin d'année.
Ça, on est d'accord.
Et c'est assez difficile de passer à côté quand tu vois la facilité avec laquelle tu peux rentrer dans le jeu parce que le jeu est pas cher, il est gratuit sur mobile et ça demande pas d'être super skillé en jeu vidéo. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment t'en tenir à ce qui est sorti cette année, bah c'est compliqué, quoi.
C'est con. Je suis baissé dans le chat qui dit non, mais le jeu de l'année, c'est Plague.
Plague Inc.
J'avoue. Effectivement. Alors, je voudrais qu'on parle de 2-3 catégories un tout petit peu intéressantes. Je pense à Games for Impact, par exemple, qui est la catégorie... le jeu vidéo, ça peut aussi faire un petit peu réfléchir, ou ça peut aussi, en tout cas, vous amener sur un terrain auquel vous attendiez pas. C'est notamment...
Ça peut taper dans les feels.
C'est ça. Alors, des fois, c'est un peu abusé. Des fois, c'est justifié. Je pense notamment à That Dragon Cancer, qui était quand même un truc assez...
Ouais. Alors, celui-là, j'ai découvert, et juste lire le pitch, ça m'a foutu le...
Ah, ça fout le sol.
Ça m'a foutu les poils, ouais.
Ah non, c'est chaud. Là, il y a quand même 2-3 trucs un peu intéressants. Il y a If Found. Alors ça, je ne connais pas du tout.
Donc, alors, If Found, qui est un jeu sur le coming out et sur le fait de... Il est décrit comme un jeu qui parle de retour au foyer, de coming out et de tout effacer. Sur Steam, c'est le synopsis, et d'après ce que j'en vois dans les images, donc je l'ai pas fait, le curseur c'est une gomme, et l'idée c'est de se balader à travers des tableaux et d'effacer des... sûrement les parties, je sais pas, honnêtement, comment ça joue, peut-être, je sais pas exactement,
pas.
Mais effectivement, donc il y a l'idée de coming out...
Voilà. Et donc, après il y a Kentucky Route Zero, qui ont... alors, ce qu'on m'avait dit, alors, j'ai pas suivi le jeu non plus, c'est vrai que la catégorie Games for Impact, des fois c'est quand même souvent des jeux relativement obscurs.
C'est souvent des jeux discrets. C'est après ça. Kentucky Road Zero, c'est pas non plus un jeu qui est méconnu dans le sens, en fait c'est un jeu en épisode qui sort depuis déjà pas mal d'années. Parce qu'en fait là, la télévision c'est la version complète, mais en fait le jeu est en publication depuis 2013 ou 2014, quelque chose comme ça.
Et de ce que j'ai compris, c'est une espèce de, effectivement, de Twin Peaks, David Lynch, ouais. David Lynch, le jeu. C'est un truc assez chelou, mais qui amène dans plein de directions différentes, sans forcément de cohérence au milieu d'ailleurs.
Oui, ça touche à la psyché humaine, vous comprenez, là on va dans les profondeurs, et la bêtise de l'être humain.
Alors,
j'en sais rien du tout.
Alors,
pas que c'est un très bon jeu. Enfin, pas que c'est un jeu intéressant.
C'est
mais chiant.
Voilà, que c'est intéressant, mais particulier, quoi. Particulier au sens chiant.
Bah, en fait, ce que je veux dire, c'est que des jeux de cette catégorie, ça va très rarement être des jeux d'action comme on l'entend en temps normal. Hein.
Non, mais bien sûr.
Parce qu'on veut te faire sentir autre chose que juste tuer des gens, donc c'est normal.
Ça se rapproche plus, enfin, il y en a beaucoup qui se rapprochent plus, je pense à Spiritfarer notamment, qui se rapproche plus de, on va dire, l'expérience interactive plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le Walking Simulator, mais voilà, c'est plus des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il faut plus penser ça comme effectivement une espèce d'expérience interactive.
Parce que Spiritfarer, il y a des câlins, donc c'est interactif. Hein.
Oui, par exemple. Voilà, mais je trouve que ça c'est le genre de truc qui a surveillé. Pour moi, le jeu qui gagne le Games for Impact, il vaut peut-être le coup d'être fait si tu le trouves à pas cher.
Mais pour moi, tous les nominés, tu vois, en 2017, c'est Hellblade qui a gagné.
Oui, qui était intéressant aussi.
Qui était super intéressant. Dans les nominés, tu avais Enterre-moi mon amour. Alors, j'en avais parlé dans un précédent de Jobar. Et c'est quand même un jeu qui parle de migrants qui fuient la Syrie.
Mais il n'y avait pas Papers, Please aussi qui s'était retrouvé dans un Games for Impact
Ah, c'est probable. Hein. Alors l'année dernière, c'était Gris le gagnant.
Je le vois pas, oui. C'était Gris. L'année d'avant, c'était Céleste.
Vous dites Gris, ou moi je dis Gris.
Bah, faut le dire à l'espagnol en fait.
Ouais. Gris.
Gris.
Qui était très bien d'ailleurs. Effectivement, c'est le genre d'expérience qui est. Alors là, t'as de la vraie plateforme, même si ça reste pas très compliqué.
Oui. Mais pour. Voilà, tu as un gameplay qui est en terrain connu. Pour parler d'autre chose, quoi.
Oui, et puis les jeux vidéo, c'est pas forcément.
Là où Kentucky Road Zero.
Ça va aussi jusqu'à l'expérience interactive.
Voilà.
Tout à fait.
Pour le coup.
Kentucky Road Zero, tu parles de sujets qui ont déjà été évoqués par Lynch avec un gameplay qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il est différent, quoi.
Tiens, d'ailleurs, en parlant de Céleste.
Très positif sur Steam. Hein. 83% d'évaluations positives sur Steam. Pardon, Antix.
Je voulais juste revenir sur Céleste, parce qu'on parlait de Céleste en 2018. Un petit truc intéressant, mais qui du coup à l'époque était peut-être passé inaperçu auprès de pas mal de monde, même du créateur lui-même, c'est qu'en fait c'était le créateur de Céleste. Merde, j'ai oublié son nom.
C'est Matt Does Game, je crois.
C'est Matt Does Game, donc je sais plus. Enfin, son prénom était Matt, puisqu'en fait il a changé de sexe, il a fait sa transition.
D'accord.
Et il a. Et en fait, quand il a récemment sur Twitter, ben, quand il a annoncé ça, il a dit, mais on m'a posé la question, est-ce que Céleste est un jeu à propos d'une personne trans qui se cherche ? Parce que beaucoup de personnes trans avaient fait la remarque, mais ben, c'est clairement ça en fait. Enfin, eux, ils l'ont vécu comme ça. Et Matt, à l'époque où il a écrit le jeu, il n'était pas tout à fait sûr, et il a dit, mais en fait, avec le recul, ouais, c'était très probablement ça, parce que en fait, je pense que ce que j'ai mis dans Céleste, c'est ce que j'ai vécu de mon côté aussi au niveau de ma transition.
Okay.
Donc voilà, l'impact déjà Céleste à l'époque en termes d'impact était intéressant.
C'est marrant parce que je l'avais pas du tout vécu comme ça, moi, le jeu.
Oui, non, moi non plus. Mais c'est en même temps, c'est normal parce que je pense que c'est pas des choses qu'on va vivre. Mais...
Et du coup, tu projettes ce que tu veux dedans. Ouais.
Voilà, et ça, c'était assez intéressant qu'il y ait cette possibilité d'autres interprétations avec le recul. Voilà, c'était une petite parenthèse pour Céleste. C'est ce que j'ai vu ça il y a pas très longtemps. Je crois que ça date d'il y a un mois, ce que j'ai lu. Hein.
Intéressant.
D'accord. En tout cas, c'est intéressant.
Ça venait du dernier DLC, en fait, où, donc, qui a rajouté un chapitre 9, il me semble.
Ouais, absolument horrible.
Ouais, qui est apparemment ignoble, mais quand on le finit, donc on voit Madeline.
Horrible en difficulté, hein, les gens.
À son bureau avec un petit drapeau trans, effectivement, dans un mug.
Ok.
Donc les gens, à partir de là, oui, avaient demandé. Mais effectivement, dans la catégorie Games for Impact, donc cette année, donc on a dit Kentucky Route Zero et If Found, on a aussi Spiritfarer, qui est un jeu... Alors, je vous lis le synopsis. Spiritfarer est un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort. Donc, cosy, mais pas trop, manifestement,
en fait,
puisque
c'est...
ça parle du décès.
Tu remplaces Caron sur le Styx.
C'est ton job d'été en fait.
D'accord,
c'est,
ça, okay.
C'est un peu son job d'été. Mais pour ceux qui s'en souviennent, ce jeu avait fait l'ouverture d'un Indies.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que je dis que c'est un jeu à câlin. Parce qu'il y a beaucoup
c'est
de
98% de reviews positives sur Steam. Donc...
Ah non, mais c'est
énorme.
Ça a l'air très bien. Hein.
96, très, très pardon.
Bien. Enfin, c'est un jeu qui est extrêmement détente et extrêmement feel good. Hein.
Ça reste très beau. Quand ils disent cosy, ça reste très. Enfin, c'est un. La mort est un prétexte. Hein. Clairement, ils auraient pu inventer n'importe quoi d'autre.
Bah, l'idée, c'est d'aider les gens qui sont sur ton bateau, justement, à accepter leur mort, si j'ai bien compris, et à les aider à passer vraiment dans l'autre monde. Donc, t'es vraiment sur le Styx, hein, pour le coup. Mais c'est pas le Styx de Hades.
Bref, c'est, oui, c'est pas le même genre de Styx. Je voudrais parler d'une autre catégorie un peu rigolote, qui était le Best Ongoing. Donc en fait, l'idée c'est d'aller récompenser les jeux qui ont le meilleur suivi.
Qui sont toujours pas morts.
C'est ça, qui sont toujours pas morts. Dans lequel on a Call of Duty Warzone, Destiny 2, Apex Legends, Fortnite et No Man's Sky. Et en fait, No Man's Sky, je l'ai complètement oublié. Ouais. Mais visiblement, c'est encore extrêmement suivi.
Ben en fait, c'est plus le même jeu aujourd'hui. Tellement ils l'ont...
C'est ça, les mecs l'ont regretté. Et il paraît que... Enfin, j'ai appris ça juste en lisant la catégorie. En fait, le jeu est ressorti en boîte, une autre version.
Ouais.
Qui est en fait une espèce de version complète. Enfin, on va dire... 2.0 pratiquement, qui s'appelle, je sais plus comment.
No Man's Sky Next.
C'est ça, ouais.
C'est ça, et qui se rapproche du coup de la promesse de base.
C'est un truc de fou quand tu y réfléchis, quoi. Les mecs ont vendu du rêve, ils ont délivré de la merde, et finalement ils ont quand même fait du rêve derrière. C'est ça. Ils ont eu quand même le budget pour continuer.
Ils se sont rattrapés.
Ils se sont accrochés, hein.
Ouais, parce que pour le. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a une ressortie en boîte, c'est que ça leur a pris à mon avis du temps, donc ils ont dit on va ressortir le jeu dans une nouvelle version pour refaire des sous en plus, ce qui est tout à fait normal.
Non, alors voilà, le jeu continuait à être mis à jour en digital, hein.
Oui, la
version boîte elle vient imprimer ça, mais numérique, c'est vrai que... Oui, numérique, pardon.
Mais t'as le même phénomène chez Nintendo, apparemment quand il y a des rééditions de jeux, les mises à jour sont sur la cartouche. Donc c'est un peu le même genre en fait pour ce No Man's Sky Next, c'est qu'effectivement tu as, en gros, on te file la version 2.0 du jeu sur une galette.
Ce qui est pas plus mal, ça évite les pages de... C'est pas combien de gigas, alors surtout sur Switch.
Mais là, donc quand t'as acheté la version 1.0, en fait, tu as les patchs pour aller jusqu'à la 2.0, il y a vraiment aucun souci là-dessus, mais tu peux acheter la 2.0 directement. Ce que je trouve rigolo.
À la Minecraft, hein, c'est vraiment des mises à jour de contenu, mais ouais. Pour le coup, qui changent quasiment complètement le jeu. Vas-y, Antix.
Non, je disais, c'est intéressant d'avoir un... Parce que la catégorie, quand tu la regardes, c'est que des jeux multi. Sauf No Man's Sky, qui est vraiment un jeu purement solo. Bon, ouais. Il y a du multi dedans, mais c'est un jeu solo à la base. Et c'est assez intéressant de se dire que bah, voilà, il y a quand même un jeu solo qui a eu un suivi aussi énorme sur la durée. J'ai pas trop d'autres exemples en tête là-dessus, quoi.
Bah, Minecraft, en fait. Enfin, c'est vraiment le même style de suivi, dans le sens où les mises à jour apportent du contenu. On n'est pas dans des mises à jour de patch ou d'optimisation à la... Par exemple, jeu de combat,
Super Smash Bros. Voilà,
pardon.
Street Fighter. Par exemple.
Alors, justement, Animal Crossing, ça se rapproche d'un modèle No Man's Sky ou Minecraft dans le sens où ça rajoute du contenu à chaque mise à jour.
Ah, je suis pas d'accord. Pour moi, No Man's Sky, ils ont vraiment repensé tellement complété la formule de base qu'ils auraient pu faire un 2.
Animal Crossing, oui, bien sûr. Rajoute des événements et des fonctionnalités. No Man's Sky, ouais, il y a eu une vraie refonte de l'expérience de manière générale. C'est surtout ça qui est ressorti des tests du Next, de mémoire.
Mais du coup, face à Warzone, Call of Duty Warzone, donc, qui est le Battle Royale Call of Duty, c'est vrai que ça fait pâle figure, quoi. Même Fortnite, qui sont des... Fortnite, peut-être un peu plus, parce qu'il y a quand même cette idée d'épisode.
Oui, c'est ça, en fonction des saisons, puisque ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'ils annoncent une nouvelle saison dans laquelle il y a... Tout va être bouleversé. Bon, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui est bouleversé, mais tu as quand même des petites nouveautés, et soit des nouvelles cartes, soit des nouveaux mécanismes, des nouvelles armes.
Des placements produits.
Stop. non, mais voilà, quand tu vois le barouf d'enfer qu'avait fait The Void, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là.
Pas du tout.
Fortnite s'était complètement arrêté pendant 72 heures. Et les gens contemplaient juste le vide, le néant, avant le début de la saison suivante. Tu te dis que, bon, effectivement...
Avant le début du chapitre suivant.
Du chapitre suivant.
J'étais passé à un autre chapitre.
Voilà, donc là tu dis.
Ah oui, le procès avec Apple, ouais, je me rappelle.
Stop. Qu'il y a peut-être quelque chose à récompenser. En tout cas, enfin, il y a de l'idée derrière. Il y a une catégorie qui personnellement m'a beaucoup fait rire, c'est le Best Community Support. Donc, basiquement, qui c'est qui a le meilleur compte Twitter.
C'est marrant, voilà. On retrouve les mêmes.
Et on retrouve les mêmes, donc on va
passer.
Mais
alors, Valorant, aucune espèce d'idée de ce qu'il fout là, pour le coup. Je ne l'ai jamais vu passer nulle part. Alors que Fall Guys, pour le coup, est un bon exemple. On rappelle que le scène de Fall Guys se prend tous les jours des dead games dans la gueule.
Ouais.
Mais bon.
Bon, bref. En tout cas, ça se débrouille. Et la dernière catégorie dont je voulais parler, qui est peut-être plus intéressante, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas fait de vrai sujet dessus.
Si peut-être.
Mais un jour, il faudrait.
L'accessibilité.
C'est Innovation in Accessibility, c'est-à-dire effectivement l'accessibilité dans lequel on retrouve Assassin's Creed Bugala. C'était gratuit, c'était pour moi. Non, mais en vrai, c'est que des jeux qui ont eu, qui essaye de faire avancer les questions d'accessibilité, donc effectivement de rendre les jeux plus accessibles aux gens qui sont malentendants, malvoyants, qui ont des soucis de coordination de mouvement, qui ne peuvent pas forcément maintenir des touches ou des choses comme ça. Donc il y a dans ces jeux-là énormément d'options qui permettent à ces jeux-là de s'en sortir. Je citerai juste Assassin's Creed Valhalla pour deux ou trois bricoles que je trouve personnellement intéressantes. Parce que ça a souvent été reproché aux Assassin's Creed d'être soit trop aseptisé, soit au contraire pas assez. Et là, en fait, tu peux le régler dans le jeu. C'est-à-dire que tu peux activer la nudité. C'est-à-dire tu peux l'activer et le désactiver.
C'est bien ça.
Tu peux activer, alors on va dire, bon, violence, c'est un peu compliqué parce que. Voilà.
Une jauge de sang, quoi.
C'est, en gros, tu peux faire ça, mais tu peux activer ou désactiver les démembrements.
D'accord.
C'est-à-dire que t'as le droit de dire je veux pas de démembrement parce que je trouve ça gore.
Et ça, c'est pratique pour le sortir en Chine, du coup, j'imagine.
Alors, j'imagine que derrière, il y a aussi des raisons. Parce que ça permet effectivement d'aller... Mais le fait que ce soit des options qui soient directement intégrées dans le jeu, je trouve ça vachement intéressant. Donc quand tu désactives la nudité, par exemple, les personnages féminins comme masculins ont systématiquement, automatiquement, au moins un Marcel, tu vois.
Ok.
Ce qui est pas mal, en plus, en termes de... de personnalisation de l'expérience, quoi.
C'est ça. Alors on sort un petit peu des options d'accessibilité, puisque c'est effectivement plus de l'ordre de la personnalisation de l'expérience.
Qui est limite dans le contrôle parental.
Mais ce qui est intéressant, c'est parce que ça veut dire qu'en fait, tu peux dire, bah, mon fils qui est un peu jeune, il a envie de il est dans le coin, et ben j'évite de lui mettre des gens nus, ça devrait pas être un problème, ça. Ou des démembrements gore, là c'est vraiment un problème.
Les démembrements gore, par exemple...
Ah, c'est bien, ça par exemple. C'est bien.
Je me dis que ça, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que, bon, régler la quantité de sang qui sort, ça fait un peu Mortal Kombat, ça, pourquoi pas.
Alors change la couleur aussi, elle devient vert.
Tu peux changer la couleur, et puis c'est beaucoup moins problématique.
Y a Sam qui faisait ça, où tu pouvais remplacer par des confettis.
Plein d'autres gens.
Ou alors c'est comme dans No More Heroes, et c'est des gerbes d'argent.
Resident Evil 2 N64, tu peux choisir d'avoir du sang bleu. Donc tu ne tues que des nobles.
Ah, parfait.
C'est parfait.
Le jeu de la révolution.
Non, mais voilà, t'as des innovations intéressantes. Watch Dogs Legion, donc c'est le deuxième jeu Ubisoft dans cette même catégorie, fait des choses assez pareilles, alors que comme Assassin's Creed Valhalla, tu retrouves des options très similaires, avec des sous-titres qui se détachent, des sous-titres plus lents, des trucs que tu peux passer, t'as vraiment énormément d'idées pour rendre les jeux plus accessibles. Ça, c'est des choses... qu'on devrait progressivement retrouver un peu partout dans l'industrie, c'est quand même de très bonnes idées. Il paraît que The Last of Us Part II a également de très bonnes idées d'accessibilité aussi dans ce genre-là.
Ils ont pas mal d'options
extrêmement poussées.
Pour le coup, Naughty Dog, c'est quelque chose sur lequel ils sont. Du côté de chez Sony, ils ont été assez précurseurs, il me semble, en termes justement d'options d'accessibilité, de sous-titres, même par exemple supprimer des QTE.
Tout à fait.
Dans Spider-Man PS4,
te permettre de les passer en appuyant juste sur une touche plutôt qu'en martelant une touche.
Ouais, exactement. Ouais. Dans Spider-Man PS4, c'est déjà le cas. Et Miles Morales, ils avaient fait un long thread Twitter en expliquant, je pense que vous pouvez le retrouver sur le compte Twitter d'Insomniac, où ils expliquaient toutes les options d'accessibilité, mais c'est dément ce qu'ils ont fait.
Et ça, pour le coup, c'est un truc sur lequel on est beaucoup plus en avance en Occident qu'au Japon. Je pense aussi parce que les questions de handicap dans la société au Japon sont... un petit peu mis sous le tapis, on va dire, dès qu'ils peuvent. Et je recommande, pour ceux que ça intéresse comme sujet, Gamekult a fait plusieurs enquêtes dessus, que je vous recommande de lire si vous êtes premium, et Mark Brown de la chaîne Gamemaker Toolkit a fait une série de vidéos dessus, et il va le faire, durant le mois, il va faire une vidéo sur les meilleures options d'accessibilité dans les jeux vidéo. Ce qui est plutôt chouette si vous intéressez au sujet. D'ailleurs, dans sa dernière vidéo, il a fait un petit tacle à Nintendo là-dessus en disant c'est des jeux qui sont très faciles à prendre en main si vous n'êtes pas handicapé.
Malheureusement, c'est quand même un peu vrai.
Tacle
tout à fait mérité, je trouve, parce qu'effectivement, le simple fait que tu... Alors, à leur crédit, tu peux maintenant remapper les boutons de la manette.
Ouais. Après, ça enlève pas que c'est des QTE, et que t'as des problèmes, ça, je peux pas. Breath of the Wild, à mon avis, pour certains handicapés, il est injouable.
Je pense aussi, il y a quand même énormément de... Il y a d'autres problèmes dans ces jeux-là, notamment le fait que les sous-titres sont pas toujours bien détachés, bien lisibles, que tu peux pas en changer la couleur, ni...
C'est le dernier Fire Emblem, où les textes sont considérés comme vraiment petits, notamment sur l'écran de la console. Alors moi, j'ai pas eu le problème, mais c'est un truc qui est souvent revenu.
Alors moi de temps en temps j'ai le problème quand les sous-titres sont vraiment très petits parce que je suis myope et astigmate, et malgré la correction même avec des bonnes résolutions, même en étant près de l'écran, il y a des fois où je vois un peu flou, c'est un peu compliqué.
Et c'est un truc que j'avais vu sur le dernier Mario Party où un couple dont un des deux membres était handicapé avait dit qu'en fait le jeu était injouable parce que ça a changé de maniabilité tout le temps sur les mini-jeux et il n'y avait pas moyen de genre
modifier la façon de gérer. Caler ou je sais pas quoi.
Je sais plus c'était quoi, mais genre appuyer plusieurs fois sur le bouton, c'était pas possible pour la personne. Ouais, mais du coup, en fait, il y a des mini-jeux, je peux pas y jouer.
Et t'as des trucs intéressants comme ça hein, sur les QTE par exemple où faut marteler un bouton, bah t'as effectivement des options qui te permettent juste de le maintenir appuyé.
Ou juste d'appuyer dessus une fois.
Ou d'appuyer juste dessus une fois, ou d'appuyer moins vite, c'est-à-dire avec un rythme plus lent, tout bêtement. Et effectivement, c'est. Enfin voilà, il y a des choses intéressantes à faire. Cette catégorie-là, c'est le genre de truc où il va vraiment falloir surveiller. Enfin, ça va être à surveiller parce que je pense que. J'espère sincèrement qu'il y a, depuis le temps qu'on en parle de ces questions-là. Qu'il y a des choses qui vont devenir des standards de l'industrie. Il y a déjà des choses qui sont en train de le devenir. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, par exemple, toutes les énigmes à base de reproduction de sons ou des énigmes musicales, tu as systématiquement des indices qui te permettent de le résoudre de manière non musicale. C'est assez systématique. Pareil, c'est aussi des questions d'accessibilité, le fait de simplifier les énigmes pour permettre à tout un chacun d'arriver à profiter de l'expérience de jeu. Il y a des jeux sur lesquels, effectivement, c'est la base du gameplay, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi ajuster un peu la difficulté là-dessus.
Un truc qui avait très bien fait. Les Tomb Raider, notamment. Ouais.
J'allais parler de Tomb Raider qui te permettait d'ajuster la difficulté du jeu selon trois critères qui étaient l'escalade, les énigmes et les combats. Tu peux avoir des combats très simples, mais mettre les énigmes en difficile, c'est ton kiff. Je trouve que c'est super bien comme idée.
Moi, je pensais à Paper Mario, où effectivement, quand tu commences à galérer, quand le jeu voit que tu commences à galérer, il t'aide.
Ouais.
En faisant les versions de plus en plus simples du puzzle.
Bah, ça s'est surtout vu sur la dernière phase du boss final, où si tu meurs trop souvent, le puzzle, tu peux pas le louper, quoi.
C'est ça, mais il y a d'autres puzzles à d'autres endroits qui, en fait... Je me rappelle d'un truc
qu'on te montre.
Il y a ça, oui, mais il y a un chemin qui s'illumine aussi, en faisant genre gauche-droite avec un pattern.
Une pyramide, oui.
C'est pour et donc au départ, il part de la fin, et donc il faut que tu mémorises le truc. Ensuite, il part de la fin, mais il te laisse toutes les cases allumées pour que tu vois bien par où il faut passer. Puis après, il part du début, puis à la fin, il te montre carrément où il faut aller.
Ouais.
Paper Mario, c'est assez bien fait, c'est que tu avais vraiment plein d'options pour te faciliter la vie en jeu, et ça, j'avais trouvé que c'était très 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 bien, parce que tu peux faire le jeu vraiment avec le minimum d'aide. Mais en fait, quand tu regardes bien les Toads et compagnie, ça, c'est des aides. Et c'est ça que ça retue, hein, ça sert juste à payer les aides.
C'est ça. Et en fait, moi, ma fille qui a 8 ans maintenant, et qui, elle a fait quasi l'intégralité de Paper Mario sans me demander mon aide, c'est-à-dire de temps en temps, elle me demandait mon aide, quand elle n'y arrivait vraiment pas. Mais en fait, elle a très vite compris que quand elle n'y arrivait pas, le jeu allait lui donner une petite carotte, en fait, pour la faire avancer, pour lui dire... Bah, t'inquiète pas, t'y es pas arrivé, c'est pas grave, regarde, je te donne un indice, je peux même le faire à ta place, ou même tu peux payer, avec la thune du jeu, évidemment.
Quand même. Sors ta carte bleue, petite.
Sors
la CV de tes parents.
Pour que les Toads fassent un point de dégâts.
Non mais t'as une énigme où tu peux carrément payer pour baisser la difficulté.
Mais moi ce que je trouve vraiment
intéressant... Je trouve ça vachement intéressant, parce que finalement c'est récompenser aussi un peu la persévérance, et de dire, bah t'as envie de voir le jeu, t'as envie de profiter du jeu, de l'humour, de le finir, quoi, mais tu galères un peu parce que bah, c'est pas forcément si évident que ça quand on a cet âge-là. Bah, écoute, on va t'aider, on te laisse faire le truc normalement, si t'y arrives, c'est bien, si t'y arrives pas, bah écoute, on te file une petite sucette pour y arriver un peu mieux.
Ah, c'est cool.
Mais ce qui est, moi ce que je trouve intéressant, alors Hyperdot fait un peu, est un peu à part, je trouve, dans cette catégorie.
Alors, ça consiste en quoi, Hyperdot, d'ailleurs?
Alors, je sais pas exactement c'est quoi le gameplay, mais j'ai lu un truc sur le jeu qui disait que il a été conçu dans son processus de création. Les développeurs ont toujours été en lien avec des personnes avec différents handicaps, que ce soit moteur, mentaux, physique, tout ce qu'on veut, qui pour rendre le jeu le plus accessible possible à toute étape, pour que le jeu soit voilà, soit dans son cœur, en fait, accessible. Et ça, c'est une démarche qui est, il me semble, assez nouvelle. Quand on voit que certains jeux, leurs filtres de daltonisme, c'était juste des filtres de couleurs qui ne changeaient absolument rien. Bon,
quand on voit un jeu...
Oui, c'était... Alors, oui, voilà, c'est un filtre, mais qui faisait voir les personnes bien voyantes comme les daltoniens, et qui ne réglait pas le problème du daltonien. Enfin, bref. Donc, à part Hyperdot, qui est un peu à part, Je trouve que, et je sais pas si vous êtes d'accord, mais un truc comme Tomb Raider qui permet d'ajuster la difficulté, Assassin's Creed Valhalla qui permet de dire nudité ou pas nudité, si vous êtes à l'aise ou pas avec ça, tout simplement, sans parler de l'âge, ou démembrement, pas démembrement, The Last of Us qui vient dire, bah, si tu veux, si tu, voilà, si t'as des problèmes de vision, c'est pas grave, tu peux surligner les ennemis, enfin, les rendre fluo.
Les rendre fluo tu peux même, je crois qu'il y avait un truc qui permettait de les voir en vraiment surbrillance complète, tout le temps, quoi. Donc, tu ne peux plus les rater. Donc, si t'as des problèmes de, parce qu'il y a des, alors, moi qui suis astigmate, je connais assez bien le problème. L'astigmatie, en fait, c'est très drôle. Je vous montrerai en off une photo de moi, ce que je vois quand je conduis la nuit, même avec ma correction.
Oh, l'enfer.
Je te garantis que c'est pire que l'enfer. Donc, je vous montrerai ça après, parce que...
Ouais, c'est pas conduite, quoi.
Moi, effectivement, les jeux vidéo extrêmement sombres, j'ai du mal, en fait, à détacher les détails et les ennemis du reste. Et donc, le fait de les rendre fluo, c'est con, mais ça m'aiderait énormément dans certains jeux.
Mm-hmm. Et je trouve que tout ça, ça démontre une confiance en son, et c'est là, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que c'est, et c'est un peu ce que montrait Game Maker's Toolkit, c'est que ça démontre une confiance en son système de jeu. C'est-à-dire de dire, bah, notre jeu, il repose pas seulement sur la nudité, sur les démembrements, ou sur le fait que les ennemis soient en sombre, il repose avant tout sur les sensations qu'il vous procure.
Bah, c'était un peu la démarche de Matt Make Games avec Celeste, qui proposait un mode assisté. Et le mode assist dans Celeste, il y a des options genre ralentir le temps, c'est aussi pour ce genre de personnes qui veulent profiter du jeu et du gameplay mais qui n'ont pas la vitesse pour enchaîner les sauts comme que demandent les derniers niveaux du jeu par exemple. Et je trouve ça cool que justement il y a vraiment aussi ce genre de mentalité, et comme tu dis Galaxy, c'est un côté, voilà, on a confiance en notre jeu et en sa qualité. Donc on peut se permettre de vous laisser aussi vous faciliter la vie, parce qu'on pense que les qualités du système de jeu, elles sont là, mais que ce ne sont pas les seules aussi. Enfin, le challenge n'est pas la seule qualité du jeu, il y a aussi tout ce qui va avec, l'ambiance, l'histoire, le level design qui est très très bon par exemple, dans le cas de Celeste. Donc je pense que ça c'est cool. Et on parlait de daltonisme, et on va revenir sur Among Us, parce que c'est justement un petit cas intéressant, c'est que... Le jeu à la base, donc sorti 2018, est passé totalement inaperçu. Et donc ils étaient en train de plancher sur un 2, ils sont revenus sur leur décision vu le succès du 1. Et un des premiers trucs qu'ils ont ajouté dans les premières mages qui ont suivi justement le succès surprise de cet été, c'était des options pour les daltoniens. Parce que pour avoir joué à Among Us avec un daltonien, qui te disait qu'il n'arrivait pas à différencier le vert du jaune, et qu'évidemment le mec qui était en jaune s'appelait vert.
Oui, voilà, c'est donc, voilà, très pratique.
Très pratique. Ou qu'il y a un mini-jeu.
Il fallait connecter des fils de couleurs.
Des fils de couleurs. Alors, les fils sont bleu, jaune, rouge et rose. Normalement, des couleurs relativement différentes. Je ne sais pas si ça couvre tous les spectres du daltonisme, mais dans le doute, les mecs ont mis des petites.
Des petites lettres, des petits symboles.
Des petits symboles sur les fils pour savoir où fallait les relier. Et pour les personnages, bah, en fait. Ils ont fait en sorte que les costumes que tu as sont affichés quand tu discutes, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est pas le top, parce que suffit que les gens n'aient pas mis de costume et tu auras toujours le problème pour différencier le vert clair du vert foncé. Mais,
Oui, mais t'as l'option. Elle
voilà,
existe.
Au moins il y a ça, et ils ont bossé ça aussi. Alors,
et ils planchent sur d'autres trucs. Hein. Ils disaient qu'ils étaient à l'embryon, en tout cas un stade embryonnaire de leur réflexion sur l'accessibilité. Et on sent que c'est quelque chose qui est au cœur. Enfin, moi, je pense qu'on peut, sur ce terrain-là, l'accessibilité, on peut quand même peut-être saluer déjà Game Maker's Toolkit, qui fait donc sa série Design for Accessibility, donc designé pour l'handicap.
Ouais, qui a été une série de vidéos qui a énormément aidé, qui a en tout cas vraiment mis le problème à un niveau grand public, et qui, de ce que j'ai compris, a même influencé certaines décisions, notamment les développeurs de Fury qui ont choisi de mettre le mode promenade, un mode très facile dans leur jeu, après avoir vu les vidéos en se disant, mais en fait, nous, on voulait faire un truc un peu hardcore et s'affirmer en tant que tel, et en regardant la vidéo, on s'est dit, bah non, en fait, c'est stupide, faut faire l'inverse.
Et aussi Phil Spencer, donc qui était, il me semble, à la tête de Microsoft, qui a commencé
c'est
à lancer
le chef de la division Xbox.
Oui, c'est ça. Oui, pas Microsoft, pardon. D'accord, ok. Il me semblait qu'il. Oui, non, c'est Hugo Vrard. C'est en France que ça a démissionné.
Voilà, c'est en tout cas le représentant public de la marque Xbox d'un point de vue mondial, puisque c'est lui qui fait les. toutes les présentations liées à la série X, notamment cette année, et qui reste la personne qui porte le discours Xbox au niveau des médias.
Et ouais, on peut saluer, je pense aussi, le fait qu'il ait, il me semble, une fille qui soit handicapée moteur, a aidé, en fait, a fait que Xbox a poussé la création, notamment de la manette. On en avait déjà parlé il y a quelques temps.
Elle est incroyable, cette manette.
La manette, justement, pour les personnes handicapées, à handicap moteur, qui est assez folle et qui est utilisée maintenant par un bon milliard d'associations de gaming dans les hôpitaux ou même juste dans la vie pour les personnes à handicap moteur.
D'ailleurs, en parlant de ça, il me semble avoir vu que Ori, le fabricant japonais d'accessoires, avait sorti un truc similaire sur Switch.
Oui, c'est le cas. C'est le cas.
Non, c'est dommage que ce soit pas Nintendo qui l'ait fait, mais...
C'est licencié officiellement par Nintendo, c'est pas eux qui l'ont fait.
C'est vrai que depuis le début. Mais ouais, après, c'est un peu comme ça depuis le début, en vrai. Hein.
C'est un peu comme ça. Je trouve ça personnellement dommage. Je pense qu'effectivement, Nintendo qui se vante comme étant pour tout le monde et pour toute la famille, le fait que ces problématiques-là soient mal prises en compte. Alors effectivement, c'est peut-être un tabou au Japon, mais ça commence à venir.
Après,
les premiers pas sont là, en tout cas.
Après, il y a la branche américaine, à mon avis,
qui va peut-être pousser au cul
qui
là-dessus.
Qui va peut-être commencer à vraiment leur pousser au cul là-dessus. Mais même, ça se voit hein, de manière générale dans les jeux Nintendo... Depuis le début de la Switch, tu vois quand même qu'il y a des idées qui ressemblent plus à des idées d'occidentaux que de japonais.
Bah, ça commence à rentrer. Avant qu'on se quitte, je voudrais quand même juste deux petites choses. Alors déjà, il y a très peu de jeux Nintendo qui sont dans les Game Awards cette année, c'est normal, il y a eu assez peu de jeux Nintendo sortis.
Il y a
Animal Crossing dans la catégorie meilleur jeu familial et meilleur jeu multijoueur.
Et jeu de l'année.
Et pourquoi meilleur jeu multijoueur?
Bah parce que c'est un jeu qui se joue multi en ligne.
Oui non mais d'accord, enfin c'est très limité quand même.
Lequel? Pardon, j'ai raté le...
Animal Crossing. Pour moi ça me paraît logique parce que t'as un côté... Tu vas sur l'île des autres et t'interagis avec l'île, ses habitants. Alors oui, il y a des limites, mais tu peux faire des activités de groupe et...
Il ne le remportera pas.
Non.
C'est ridicule. Ça je me pose la question parce que... Bon, alors, c'est Among Us qui va gagner.
Ils auraient dit jeu du confinement, ok, mais...
Mais Animal Crossing...
Best concerne... lockdown game.
Et justement, sur toute la partie confinement, le côté en ligne d'Animal Crossing, je crois que c'est un truc qui a vraiment très bien marché. Alors, il y a l'utilisation commerciale aussi.
Alors, il y a eu plein de choses qui ont très bien marché, et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il y a des choses à en dire aussi. Je pense notamment à pas mal de stars hollywoodiennes qui ont fait visiter leur île à des gens, qui l'ont annoncé comme tel, en mettant le code de leur île, ou je sais pas comment ça fonctionne, enfin, en mettant le machin de leur île sur Twitter, il y a plein de gens qui venaient les voir, et je trouve ça rigolo, ça, sur le principe. Pourquoi pas? Maintenant, l'expérience de multi d'Animal Crossing reste quand même... C'est pas le cœur du jeu, c'est très loin d'être le cœur du jeu. Et du coup, je le vois mal gagner.
Oui,
bah, le
oui
partage,
non,
c'est
mais...
le cœur du jeu, quoi. Peut-être pas. En fait, là où c'est intéressant, Animal Crossing en multijoueur, c'est quasiment du multijoueur émergent, dans le sens où c'est la communauté que ça crée. Je sais pas si voilà, à part le trading de navets, effectivement, je ne pense pas que le multijoueur en jeu soit si intéressant que ça.
Oui, c'est ça. Bah, c'est intéressant, c'est de visiter les autres, effectivement, d'aller récupérer, visiter leur île, peut-être faire des activités en groupe, mais
des fruits.
Ouais, quand tu vois, c'est vrai que quand tu vois les jeux à côté, tu dis que genre Among Us, à mon avis, marchera beaucoup mieux. Je pense que lui, il est quasiment sûr de remporter.
Et à côté de ça, on a Paper Mario, le roi Origami, qui est nommé aussi dans la catégorie meilleur jeu familial, titre
que Animal Crossing.
J'en ai oublié un autre que Animal Crossing, on l'a déjà dit, mais au même titre, et je l'avais oublié, que Mario Kart Live Home Circuit.
J'ai pas vu.
Il y est. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est vrai que les premiers tours qu'on en a font que ça a l'air d'être quand même relativement rigolo.
Je voudrais rire la catégorie familiale, on dirait la catégorie musique urbaine aux victoires de la musique.
En fait,
c'est
la catégorie Nintendo, tu sais que c'est eux qui vont la gagner chaque année.
Ouais, non, voilà, c'est ça. Et juste un dernier petit truc, je voudrais faire un tout petit clin d'œil à Streets of Rage 4 qui est dans la catégorie, alors je crois, meilleur jeu d'action.
Bagarre,
je crois que c'est ça. Non, pas bagarre.
Juste la catégorie qui s'appelle
action.
Bagarre.
Je crois que
c'est pas le meilleur jeu de bagarre. C'est juste bagarre.
Ah non, c'est meilleur jeu d'action, je crois. Attendez, je vérifie.
Il est pas dans bagarre, je te confirme, parce que j'ai la catégorie sous les yeux et c'est triste. Hein.
La catégorie
baston, t'as deux jeux qui sont des versions améliorées de jeux sortis il y a plusieurs années, Street Fighter V et MK11. Une adaptation toute pourrie de One Punch Man. Non, t'as trois jeux qui sont des améliorations, parce que Under Night Timbers, c'est une amélioration, et du coup, un jeu vraiment original qui est Granblue Fantasy Versus.
Ouais, voilà. Donc
c'est très très triste, la catégorie.
Alors après, la catégorie jeu de combat est effectivement assez triste, sauf que bon, Mortal Kombat 11, la mise à jour Aftermath, ça a apporté énormément de trucs, mais c'est pas non plus Mortal Kombat 12, hein, on va être clair, donc... compliqué. Bon, bref, donc Street of Rage 4 qui est apparu.
Action.
J'espère qu'il remportera un truc. Alors, meilleur jeu d'action, ça va peut-être être compliqué, mais j'espère qu'il remportera un petit truc, un prix du jury ou je sais pas quoi, parce que c'était vraiment très très cool et c'est développé par des petits Français, je rappelle.
Dotemu.
Voilà. Des gens très très bien qui ont énormément bossé dessus et qui font des choses très très rigolotes derrière.
Effectivement, Street of Rage, quand t'as Doom et Hades en face.
Ça va être chaud quand même.
Ça va être assez compliqué.
Ça va être assez compliqué, mais faut quand même. Enfin, Doom, à mon avis, va tout ratisser de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que Doom Eternal, il y a. Ouais.
Ah, j'ai pas joué à Doom Eternal, donc je peux pas dire. C'est vrai qu'Hades, en termes d'action, ça a été un gros kiff cette année pour
Doom
moi.
Doom Eternal, c'est.
Qui arrive sur Switch.
C'est-à-dire que Doom, je ne pensais pas que Doom Eternal ferait mieux que Doom 2016. Non, c'est le cas. Clairement, le peu que j'ai pu y jouer, parce que malheureusement, mon PC n'a pas la capacité à faire tourner ça pendant très très longtemps, de manière très fluide. C'est-à-dire qu'en 640 par 480, ça passe à peu près, mais voilà. T'es tout le temps en train de halter devant ta console. J'ai hâte de pouvoir y jouer sur Switch parce que ça me permettra au moins d'y jouer dans des conditions correctes.
Pendant les réunions.
C'est ça. Voilà. Bon, on va se quitter là parce que cette émission a duré beaucoup trop longtemps.
Oui, ça à chaque fois.
Je dis ça à chaque fois, mais ça à chaque fois, c'est vrai. Et donc, on va se donner rendez-vous dans normalement 2 semaines. Ce sera la dernière émission de la saison. Très bien. Et on fera le bilan de l'année, donc il y aura peut-être un tout petit peu de redites par rapport aux Game Awards, et encore pas forcément, puisqu'on va faire un bilan plus orienté Nintendo malgré tout, puis un peu d'actualité de manière générale.
Ça va être un bilan intéressant mine de rien, parce qu'on a eu un petit truc, je sais pas si vous avez remarqué, on appelle une pandémie.
Franchement, j'ai pas vu de grosse différence par rapport à d'habitude.
Ah, t'avais pas tes gamins plus souvent chez toi parfois?
C'est un petit peu, ouais. C'était un peu relou. Enfin bref, on a eu. Voilà, il y aura des choses intéressantes et on essaiera de faire Madame Irma 2021.
Ce qui va être intéressant parce qu'actuellement, le calendrier Nintendo n'a pas grand chose pour 2021 à part Bravely Default 2.
Et comme Disaster 2.
Stop. Et comme je suis une vraie pute, je vais aller écouter le Madame Irma de l'année dernière et vous remettre le nez dans votre caca.
Ah, ça va être drôle ça. Parce que celui-là, il est 100% foiré.
Ah, non, celui-là, putain. Oui, là, il est 0% réussite. Hein.
Moi j'étais garantie. Super confiant, j'étais là, voilà, oh trop cool, 2020, il y aura Breath of the Wild 2, excellent.
Et là, bam, un virus.
Et là, bam, pangolin.
Voilà, c'est l'effet papillon, hein. Un mec incule un pangolin en Chine et tu te retrouves enfermé chez toi pendant 3 mois.
Et Camelot, c'est même pas, non.
C'est voilà, bon, bref. Allez, on se retrouve dans 2 semaines. Bisous, ciao tout le monde.
Bye.